Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Ruben, cofondateur du label d'influence Follow, qui accueille aujourd'hui parmi les plus gros créateurs de contenu français. Pourtant, si on avait dit à Ruben il y a 10 ans où il en serait aujourd'hui, il n'y aurait sûrement pas cru. Un choix difficile à effectuer entre passion et sécurité, un parcours chaotique au lycée et en école de commerce qui le pousse à quitter le système scolaire pour se consacrer à ses projets, Ruben nous montre dans cet épisode qu'une autre voie est possible dans une société où l'on a tendance à croire que seule l'excellence académique est valorisée. Comment se réorienter quand on se rend compte qu'on n'est pas là où on aimerait être? L'importance d'écouter son instinct pour prendre ses décisions? Comment démarrer une boîte quand on n'a pas d'argent? Ce sont autant d'outils et de conseils que Ruben nous partage dans cet épisode, qui je trouve est la parfaite représentation du fait qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. Si cet épisode te plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes sur pourquoi tu apprécies écouter In Power que tu peux me le faire savoir, et en pensant à t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser pour recevoir chaque semaine de nouveaux épisodes. Et c'est avec plaisir que je t'invite à rejoindre ma conversation avec Ruben. Hello Ruben.
Hello.
Bienvenue sur In Power. Je suis très contente de te recevoir. Pour contextualiser un peu comment on s'est rencontrés, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent avaient sûrement écouté le podcast avec Élise et Julia. Et Ruben est donc un ami d'Élise et Julia, voilà, qu'elles m'ont recommandé, parce que tu vas nous en dire plus, mais tu es donc fondateur d'une agence d'influence. Je sais pas si c'est comme ça que tu te décris, mais en tout cas, je laisse toujours les invités se présenter de la façon dont ils souhaitent.
Bien sûr.
Donc voilà, si tu veux te présenter, même personnellement, professionnellement, enfin voilà, comme tu as envie de te décrire.
Eh ben merci. Je m'appelle Ruben, je suis cofondateur du label Follow depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé il y a 8 ans maintenant dans l'influence. Donc Follow c'est quoi? Pour expliquer un petit peu, c'est un label d'influenceurs où à la base on manageait des influenceurs. Donc on a commencé avec un influenceur il y a 4 ans et aujourd'hui on en a plus de 23 exactement. Pour expliquer un petit peu mon parcours, aujourd'hui bah, j'ai 29 ans, je démarre vraiment
bah franchement early, moi plus c'est tôt, okay. Plus je kiffe, plus j'en kiffe, parce que du coup on peut te comprendre, tu vois.
Trop bien. Donc j'ai fait une école de commerce.
Ah mais attends, tu commences hyper tard là.
Dis-nous,
j'aime pas te demander même qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais enfant.
D'accord, ok.
Tu vois, parce que parfois ça en dit, ouais, ça révèle des choses sur les personnes.
Ouais, je suis d'accord. Je savais pas que c'était aussi profond, mais ouais. Moi, je voulais faire acteur à la base. Donc, j'étais à l'école, comme tout le monde.
Ouais. T'étais de Paris ou non?
Ouais, j'étais de Paris, enfin de banlieue de Vincennes exactement.
Ouais, ok.
Et en fait, si tu veux, j'étais en cours, j'ai fait 9 ans de théâtre. J'ai fait 9 ans de théâtre, donc c'était théâtre et foot, c'était mes deux passions. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça a même empiété sur mon parcours scolaire.
Ouais.
Et si tu veux, à un moment donné, au moment du bac, je devais faire un choix parce que si tu veux, il y avait mes représentations et ça empiétait sur mes cours. Mmh. Et du coup, j'avais de très mauvaises notes. Et je me souviens à un moment donné, ma mère m'a dit Ruben, c'est pas possible quoi, parce que t'as des notes catastrophiques. J'avais peut-être. Par mois, je devais avoir une vingtaine de représentations. C'était beaucoup. J'étais jeune et il y avait clairement, il n'y avait pas forcément de perspective. C'était juste, j'étais passionné par ce que je faisais. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et c'est vrai que juste avant mon bac, j'ai arrêté le théâtre. Donc j'ai eu mon bac, ric-rac. Mm. Donc je savais pas trop ce que je voulais faire. Je continuais un petit peu les castings pour devenir acteur, parce que ça m'intéressait énormément, le jeu, voilà, j'adorais ça. Et en fait, si tu veux, juste après mon bac, j'ai eu une année où j'ai un peu rien foutu.
Sabbatique un peu quoi.
Ouais, sabbatique, il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment, j'étais un peu perdu, je pense comme pas mal de jeunes de mon âge, j'avais la vingtaine, un peu plus jeune, et si tu veux, je me suis lancé dans... J'étais à la fac, j'étais à Tolbiac, exactement.
Et qu'est-ce que tu t'es posé en fait comme question à ce moment-là? Parce que en fait, t'as renoncé quand même à une de tes passions.
Ouais.
Est-ce que tu t'es genre auto-censuré en mode je trouverai jamais dans le monde du cinéma vu que bon, bah on sait que c'est compliqué. Enfin voilà, quelle est un peu ta réflexion? Parce que bah c'est jamais facile, tu vois, d'un moment donné un truc qui nous tient autant à cœur, surtout quand tu en faisais autant que ce que tu nous dis.
Alors, c'est jamais facile, mais je t'avoue que pour aller encore plus en profondeur, c'était un peu la galère chez nous. Il n'y avait pas énormément d'argent. Et c'est vrai que quand tu vois un petit peu que ça galère autour de toi, que c'est dur de finir les fins de mois, etc., tu te dis, bah, à un moment donné, il faut absolument que je fasse des études, tu vois. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une éducation de la part de mes parents où c'était vraiment fais ce qui te plaît, mais vraiment ne pense à rien d'autre, fais ce qui te plaît. Mais en même temps, ce qu'ils me disaient, ça correspondait pas vraiment avec ce que je voyais un petit peu autour de moi, parce qu'il fallait clairement, il fallait gagner de l'argent. C'était comme ça que je voyais les choses quand je m'apercevais que à 20 ans, ça c'était compliqué de finir le mois, que je pouvais pas faire ce que je voulais, que je pouvais pas. Donc ça, c'était un des déclics qui m'ont fait comprendre de me dire. C'est bien, j'ai ma passion, j'ai le théâtre, mais il faut absolument que j'ai un diplôme, il faut absolument que je connaisse un métier, il faut que je fasse quelque chose. Alors j'avais cette maturité-là, on va dire, si je puis dire, de penser de cette manière, mais c'est pas pour autant que ça m'a bougé, puisque je me suis allé, je vais me lancer dans un truc, je vais démarrer la fac. J'étais un garçon très dissipé, avec beaucoup de problèmes de concentration. Et si je me suis vite rendu compte au bout de 3 mois que si j'étais pas encadré, ça allait pas marcher, c'était le problème de la fac. Donc j'arrivais en cours, j'arrivais pile à l'heure et je découvrais ce monde de la fac où quand t'arrives pile à l'heure, ben t'es en retard. Parce que tout le monde avait déjà rempli l'amphi, donc je m'assieds sur les escaliers. Que le prof, t'es là ou t'es pas là, c'est exactement pareil. Donc ça m'a un petit peu dégoûté. Je me suis dit putain, mais c'est quand même un truc de ouf quoi, personne te calcule. T'es là, t'es dans une fac, t'es censé être un minimum encadré, mais personne te calcule. Et si t'es pas ultra déter...
Ouais, ça doit être vraiment. C'est vas-y par toi-même pour toi-même, sinon t'es laissé.
T'es laissé et t'es hyper jeune, donc c'était hyper compliqué. Et tu sais, à la fac, il y a des trucs, je crois que c'est des TD. Des TD.
Ouais.
Et c'est le seul truc où il faut être là. Si
ouais,
t'es pas
ça,
là, t'es
ouais.
mort.
Ouais.
Et au bout de 3 TD où je suis pas venu, j'ai arrêté.
T'as pas validé.
Voilà, j'ai pas validé. Donc je me suis dit, ok, bon bah la fac, c'est pas pour moi.
À voir.
Salut. Voilà, ça c'est un de mes associés. Et donc si tu veux la fac, ça m'a vite dégoûté. J'ai repris un petit peu de théâtre, ok, par-ci par-là, un peu de casting. J'ai fait des petits trucs, mais qui n'ont absolument pas abouti. Et puis je me suis lancé dans une école de commerce. J'étais à la banque, j'ai fait un crédit, un gros crédit. Et du coup, je suis rentré en école de commerce quand j'avais 21, il me semble, 21 ans.
Et ça, est-ce que tu l'as découvert toi-même ? Enfin, parce que du coup, est-ce que tu t'es un peu posé la question, bon, bah, qu'est-ce qui me plairait plus que la fac ? Est-ce que tu as un peu fait, au final, ce que tu voyais autour de toi ? Enfin, tu vois,
ouais,
qu'est-ce que tu te disais ?
C'est fou parce que je me suis lancé dans un truc en me disant, bah écoute, qu'est-ce que je vais faire en fait ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas mis le choix autour de moi. Alors, j'avais pas les parents qui me disaient soit médecin, soit avocat, soit truc. Non, c'était pas le cas, heureusement. Il me disait, bah Ruben, il faut que tu fasses quelque chose qui te plaît. Mais franchement, à 21 ans, c'est compliqué quoi.
Il se rendait compte que c'était pas facile de choisir. Ouais.
C'est impossible, tu sais pas, tu ne connais pas les métiers. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est être commercial, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, j'avais aucune connaissance de ça. Et ce qu'on me disait autour de moi, c'était de me dire, écoute, fais une école de commerce et tu vas voir que tu vas un peu découvrir le monde et découvrir plein de métiers. Ça va t'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir savoir, ok, très bien, bon, bah, je vais faire une école. Ouais, mais par contre, ça coûte 8000 euros par an. Ah, ok, d'accord, mais je les ai pas en fait. Ok, bon, bah tu peux demander une bourse en faisant ci, ça, ça, tu peux faire ça. Bon, donc j'ai fait les démarches, j'ai fait un crédit, je suis rentré en école. Donc la première année, j'ai démarré. Et si tu veux, en même temps, ça c'est marrant, en même temps, j'ai eu une chance incroyable. C'est qu'au même moment, j'ai rencontré un monsieur. Vraiment par hasard, dans un restaurant qui lançait un site internet qui s'appelait RAD avec 3 A. Le site n'existait pas et il me disait, tu sais, on était au mois de juillet et il me disait, voilà, le site démarre, j'ai absolument besoin de quelqu'un. On m'a dit que tu cherchais du taf et moi je cherchais du taf pour partir en vacances avant de rentrer en école de commerce. Et je lui ai dit, go, je suis chaud.
Et il t'a même pas dit ce que vous allez faire ?
Pas du tout. Ruben, on a besoin de quelqu'un. Alors moi j'étais franchement. J'en voulais à mort, j'étais prêt à mettre les mains dans la merde. Il me fallait de l'argent pour partir en vacances, j'avais envie de partir en vacances avant de démarrer mon école, etc. J'ai été là-bas, c'était à Bobigny. Je me retrouve face à 3 mecs qui lancent justement ce truc qui s'appelle RAD avec 3 A. C'est un très grand entrepôt et je vois que c'est un site internet, en fait à la base c'était des ventes privées. Donc c'était les 3 associés s'appelaient Anthony Serrero, Simon Amzalag et David Smadja. Je les connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à travailler pendant un mois. Donc on a lancé le site internet ensemble, où le concept c'était des ventes privées.
Ouais.
C'était l'époque de Facebook et l'époque des blogueurs.
Donc là on était en quoi, 2009-2010?
Alors on était en 2009-2010, tu sais, c'était l'époque où il y avait des groupes. Quand tu lançais une boîte, tu faisais un groupe sur Facebook.
Ouais.
Et tu faisais monter le groupe.
Ouais.
Et je m'en souviens très bien, le groupe avait explosé en fait. Rad, ils avaient été très malins, ils avaient sourcé des produits très quali.
Parce que de nom, ça me dit un truc, moi.
Ah, mais je vais te dire ce que c'est après, je pense que tu sauras de quoi je parle. et en fait, si tu veux, là où c'est ouf, c'est que j'ai démarré un mois à faire tout et n'importe quoi. J'avais pas de métier, clairement, je les aidais, j'ai gagné, tu sais, mes 1200 euros que tu gagnes quand t'es jeune pour partir.
Ouais.
Et donc le groupe a explosé, le groupe Facebook, Rad a démarré comme ça, donc Rad, encore une fois, je le répète, avec 3A, c'était un chat, c'était le logo, je m'en rappelle. Le mec m'a dit, le mec, je parle de Simon, il m'a dit: Ruben, franchement, on a envie que tu restes avec nous, on a plein de perspectives, pour l'instant on est en fonds propres, mais ça va se développer, tu vas voir. Ouais, mais je peux pas, en fait, je rentre en école de commerce. Ok, mais est-ce que tu peux faire un mi-temps, essayer de te démerder? Moi je suis là, je sais que j'ai un crédit, je me dis écoute, why not, pourquoi pas. Je reviens vers toi et je te dis ça. En septembre j'intègre l'école, c'était l'ESG, l'école.
Ouais.
Je sais pas si tu connais. Ouais. Et donc, mon aventure en école de commerce démarre. Je fais un an où je fais un middle entre l'ESG et RAD, où RAD, de l'autre côté, explose. Ok, je m'occupe au début du service client de chez RAD.
Sympa.
Donc, en fait, tous les gens qui étaient pas contents, c'est moi qui m'en occupais. Ouais. Donc, il fallait avoir un relationnel assez, fallait être assez cool. C'était hyper important de bien traiter les clients, puisque c'est le nerf de la guerre. Et si tu veux, l'aventure RAD a commencé comme ça, en parallèle avec l'ESG. Où l'ESG, j'étais pas dedans du tout. J'allais en cours. Je trouvais qu'il y avait pas forcément de... Alors, t'apprenais des choses, évidemment, mais toujours pas de qu'est-ce que tu vas faire comme... Tu sais ce que tu vas faire comme...
Pas de révélation. Ouais.
Pas de révélation, aucune. Et en fait, RAD, on passe de 5 à 10 à 20 à 50 à 100. Une levée de fonds de 2 millions, puis 10 millions. De RAD avec 3, on passe RAD avec 1A. Et tout ça, c'est pendant les 3 premières années où vraiment j'ai été mis entre l'école et je gagnais mon argent avec RAD de l'autre côté. Mais c'était plus, c'est pas qu'une question d'argent parce que ça représentait pas grand chose. C'était vraiment, je kiffais l'aventure en fait. Tu sais, de savoir que tu gères des gens alors qu'en même temps t'es à l'école. T'es le premier salarié donc on te donne des responsabilités.
Ouais.
Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que mon meilleur ami Samuel, il m'a rejoint très très vite dans l'aventure en tant qu'acheteur. Je l'ai présenté, si tu veux, au fondateur. Ils ont accroché direct. Lui, il a démarré là-bas aussi. Lui, c'était à temps plein. Et l'aventure RAD, donc c'était l'aventure la plus importante. Donc, j'ai fait service client. Après, j'ai fait un peu de logistique. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à gérer toute la partie influence.
Donc, qui existait déjà parce que...
Alors, c'est ça.
Pour moi, c'était pas...
Là, on est en mode blogueur. Facebook,
ouais, toujours. Ouais. Ou blog pur, quoi. C'est Internet, non?
Site internet la Kenza à l'époque,
où
vraiment c'était un blog pur.
Ouais.
Et si tu veux, donc je démarre ça, je suis en école de commerce, je dois faire Erasmus absolument, je dois partir.
C'était déjà la mode.
C'était à la mode de ouf. Je me rappelle très bien, il y avait un ULTS à passer.
Ouais, je l'ai passé aussi, ouais.
Sauf que moi j'ai triché.
Ouais. Et tu t'es fait prendre?
Et je me suis fait prendre.
Putain.
En fait, j'avais envoyé quelqu'un à ma place. Je me dis là, ça se trouve, ils vont le découvrir en même temps et tout. Et en fait,
surprise.
Si tu veux. Et en fait, non, ce qui est ouf, c'est que ça avait marché. J'avais envoyé quelqu'un, ça a marché. J'ai eu une super bonne note. Je savais que si je le passais moi, j'allais avoir 0,5 sur. Je crois que c'était sur 100 ou sur 9.
Je 900, je crois que c'est l'ILTS. Ouais.
Je savais que ça allait être catastrophe. Ils allaient m'envoyer en Bulgarie et j'avais pas envie, tu vois. J'avais pas envie de ça. Et du coup. Le directeur reçoit mes copies.
Il croit pas.
Et il me convoque en me disant: Ruben, je suis désolé, mais t'as eu trop bonne note. Et là, je dis: mais c'est une blague, c'est un examen, je me défends comme je peux, quoi.
Ah oui, grave.
C'est un examen, il y a 12 thèmes à travailler, je les ai travaillés pour voir. Puis ouais, mais Ruben, je regarde tes notes sur l'année et t'as 2, 3, 4, 6 sur 20. Là, tu peux pas, tu tapes un 7 sur 9, il me semblait que c'était
ça. Ouais, c'est ça, t'as raison, je confonds avec le TOEIC.
Et le TOEIC aussi. Et je lui explique, je me défends comme je peux, je lui dis: mais regardez les vidéos, regardez s'il y a des caméras. Mais il me dit: ok, très bien, bon, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas le repasser.
Ça se fait pas.
Ça se fait pas. Et en fait, si j'avais comme une injustice où je disais: putain, mais.
j'ai réussi mon coup, quoi.
J'ai réussi, laissez-moi tranquille, il n'y a aucune preuve et tout. il était prêt à faire venir un mec qui compare les écritures.
Putain.
Parce qu'il avait ma copie et tout. Donc.
Ah ouais, ils sont investis, parce que moi j'aurais grave joué la carte de. Enfin ouais, mais c'est parce que j'ai pas bossé l'année, quoi. Et là, je me suis tapé une
bouteille. C'est exactement ce que j'ai dit. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit. Et le mec m'a dit. Enfin, le mec, c'était le
directeur.
Pardon, s'il m'entend. Mais. Et que j'adorais en plus, mais c'est juste que je me suis fait cramer.
Ouais,
en
fait. Je t'ai fait cramer.
Mais
ouais.
Sans preuve. Donc c'est une injustice horrible. Je me suis dit, putain, mais laissez-moi. Et je devais partir à Singapour. J'étais comme un ouf.
Ouais.
Et si tu veux, au final, bon, il me dit, Ruben, je suis désolé, mais il va falloir qu'on trouve une solution. Je décide de m'écraser, de dire, bon, qu'est-ce que vous me proposez? Et il me dit, bon, on te propose de partir à Barcelone. Est-ce que tu parles espagnol? Je dis, ouais, je parle un petit peu espagnol. Donc, soit tu pars à Barcelone, soit tu le repasses, ou soit tu pars à Barcelone. Ok, qui de l'école part à Barcelone?
Ah ouais, c'est toujours la vraie question, ça.
Toujours la vraie question, je me retrouve avec. Je me dis, est-ce que, avec qui je vais me retrouver?
Bah ouais, ouais.
Et il me dit, pour l'instant, t'es seul. Mais apparemment, il y a deux filles qui sont là-bas. C'est deux mes meilleures amies aujourd'hui qui s'appellent Jeanne Dana et Margot Cabla qui partaient là-bas. Donc, on était les trois seules de l'école.
Ouais.
Et du coup, je pars à Barcelone.
Et donc, en fait, t'as plus ou moins avoué, quoi. Enfin...
Bah ouais, en fait, sans rien dire.
J'ai plus ou moins avoué
et j'ai accepté. J'avais vraiment, tu sais, je m'en voulais et en même temps, je leur en voulais.
Ouais.
Je disais, mais je comprends ce que ça leur fait en fait.
Mais de c'est, franchement, moi non plus, je comprends pas. Après, peut-être qu'il n'y avait pas trop de place pour Singapour.
Du coup, non, pas du tout, il y avait de la place. Ouais, c'est juste que. Mais en même temps, j'ai envoyé quelqu'un. Quoi.
Bah ouais, non, en même temps, c'était. Ouais, t'étais responsable, mais j'avoue que quand tu réussis ton coup et qu'en fait tout pourrait marcher, t'es vénère.
Je me suis pas fait avoir. Le mec que j'ai envoyé, il me ressemblait. J'avais tout bien fait, quoi.
Ouais.
Et en plus, mes parents, je les ai angoissés à mort sur cette histoire. Ils pensaient que j'allais me faire exclure.
Parce que, eux, tu leur avais dit que.
Eux, je leur ai envoyé direct.
Putain, ouais.
J'ai dit, papa, maman, j'envoie quelqu'un à l'ULTS. Je préfère vous le dire cash. Ma mère, elle a pas dormi, je crois. Elle a peur des gars. Elle pensait que je pouvais finir en prison, tu sais, les parents. Mais je leur ai dit, maman, t'inquiète pas, c'est une école privée, y a rien, c'est pas le bac et tout.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, si tu veux, je pars à Barcelone. Je mets de côté, bah, j'en parle à Rad, quoi. Je mets de côté mon aventure Rad, où on est au début de blogging, etc.
Ouais.
Et je fais une année incroyable à Barcelone avec mes deux potes. On a un appartement là-bas. Enfin, vraiment, je tombe amoureux de la ville.
Ouais.
J'apprends l'espagnol, je fais plein de rencontres.
Mais c'est dingue parce qu'en fait, du coup, Barcelone, là, t'avais pas besoin d'avoir un test de langue, quoi. Ils disaient juste, est-ce que tu paragouines de l'espagnol, vas-y, quoi.
Pas du tout.
Ok.
Si j'ai fait un an de vacances.
Ouais. T'étais pas en cours, si?
Si, mais en fait.
Ouais, à l'étranger, c'est beaucoup moins, je trouve, présentiel qu'en France.
Franchement, j'ai kiffé parce que il y avait les Catalans, il y avait des. Tu vois, c'était. Il y avait des petits clans, mais on s'est super bien intégrés. On nous a hyper bien accueillis. Au début, c'était un peu froid, mais après, franchement, ça a aidé. J'avais de la chance parce que j'étais avec deux meufs, et du coup, les mecs, tu sais.
De ouf.
Ah bah
ouais. Ouais.
Donc, du coup, très vite, j'ai rejoint le club de foot.
Ouais.
Donc, ça, franchement, ça roulait tout seul. J'ai donc pas de travail pendant un an. J'ai appris plus de choses en un an qu'en 4 ans d'école de commerce.
Ouais.
Ça, c'est ouf. Je suis rentré, donc je valide mon année. Mais tu sais, en bricolant, franchement, tu bricoles là-bas.
Ouais, ouais.
J'arrive en 4e année. Je me retrouve en vraie galère de paiement pour payer le crédit. Énorme galère.
Bah oui, parce qu'en fait, enfin, t'as pas pu travailler pendant un an, donc t'étais pas payé pendant un an.
Exactement.
Ouais.
Je faisais que dépenser.
Bah ouais, putain.
Donc ça, c'était un peu un problème. Je rentre en 4e année. Tout de suite, Rad, ils savent que je suis de retour. Ruben, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu. Vas-y, on a besoin de toi, etc. J'ai l'école qui me boycotte un peu parce que je paye pas.
Et tu pouvais pas l'expliquer ça au fondateur de Rad parce que bah, ils t'ont quand même un peu pris sous leur aile, tu vois.
Ah bah, il me dit Ruben, viens, on t'embauche. Ruben, viens, on t'embauche, on te propose un salaire, tout ce que tu veux.
Ouais.
Mais je pouvais pas lui dire paye-moi et je travaille pas. Enfin, c'était compliqué, tu vois.
Non, c'est sûr. Non, mais pour travailler, t'aurais peut-être pu négocier en gros qui paye le prêt.
Ah ouais, non, j'ai pas
été. Vois,
ouais, j'aurais pu.
Parce que je sais pas, pour connaître maintenant les entrepreneurs, c'est vrai qu'en plus, bah, s'ils ont levé des fonds, eux, je sais pas, s'ils restaient à payer 4000 euros, ils l'auraient peut-être fait, tu vois.
Ouais, alors c'était pas 4000 euros.
Ah ouais.
Il y avait plus, mais c'était même pas ça, c'était le fait que j'étais franchement en école de commerce. En plus, je me rappelle, je suis arrivé en 4e année, j'ai pris option entrepreneuriat, parce que ça m'a directement intéressé.
Bah ouais.
J'étais constamment, et c'est là où c'est intéressant, en rentrant de Barcelone, même à la fin, et ça je le conseille beaucoup pour ceux qui veulent monter leur boîte, j'étais constamment. Matin, midi, soir, dans chaque chose que je faisais, quand j'allais au restaurant, quand j'allais en boîte, n'importe où, j'observais. Et j'essayais de regarder où est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Mais dans tous les domaines.
Parce que tu cherchais une idée de boîte.
Tu sais, quand t'es un peu frustré, pas de la vie, mais putain, l'école ça marche pas trop que ça, ça me coûte de l'argent, tu cherches, etc. T'es très ambitieux, t'as envie de trouver quelque chose qui fonctionne en fait, constamment. Constamment, t'as envie de dire, il faut absolument que je réussisse. C'était dans ma tête, faut que je réussisse, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est chaque moment de ma vie dont je me rappelle, je cherchais des choses. Dès que je parlais à des gens, je disais, putain, on peut faire un truc dans ce sens-là. Et du coup, je me disperse énormément. J'ai dû faire plein de tentatives en école de commerce. S'il m'écoute, je pense qu'il m'a écouté. Avec mon meilleur ami qui s'appelle David Berda, on a monté une boîte en école où on s'est dit, c'était juste avant Barcelone ça, où on s'est dit, bon, attends, on se rend compte les suites affreux que les écoles de commerce achètent pour le BDE, le BDA, etc. Ils sont horribles ces suites, ils coûtent 35 balles. Ok, viens, on importe un peu le concept à l'américaine, on va faire des bombers. Ok, bête d'idée, ok, on démarre. Toi, t'as le contact à l'usine, moi j'ai le contact ici, ok, tac, tac, tac. Et alors, c'était un peu le stéréotype fudge, tu sais, les mecs ils font du textile, un sentier en école de commerce.
C'est ça, à 20 piges.
À 20 piges, n'importe quoi. Mais du coup, on s'est hyper bien entendu avec les présidents des BDE. Ils ont trouvé le concept très cool et on l'a vendu. On a vendu direct. Dès qu'on a monté le truc, on a vendu peut-être 100 bombers à l'ESG. Après, on a fait toutes les autres écoles de commerce et ça marchait hyper bien. Donc, on était dans ce délire de se dire on veut créer des choses.
La débrouille, ouais.
Ouais, la débrouille totale. Et tu vois, même là, je me perds un peu, je sais même pas où.
Moi aussi, mais j'adore. Mais du coup, en fait, là, tu nous expliques ouais, que t'arrives en quatrième année, plus d'une pour payer l'école.
Exact.
Tu hésites à retourner chez RAD, si je comprends
Exactement.
Bien.
Exactement.
Donc, ouais, comment t'arrives à te situer, quoi.
Ouais, option entrepreneuriat, je suis pas fan. Tout ce qu'ils me disent, pas, je le sais déjà, mais plus ou moins. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Et là, je dis, allez, vas-y, merci, au revoir. Je dis ça à mes copines, à mes potes et tout. Ils me disent, mais t'es un malade, tu valides un bachelor.
Un moment, quoi.
Même pas, dans 6 mois, t'as validé ton bachelor. Ouais, mais vas-y. Je me casse. Et je me casse de l'ESG. Je crois que je le dis même pas à ma mère tout de suite. Je vais chez RAD et je leur dis, ok les gars, je suis avec vous. Et là, à temps plein, je démarre. C'était pas bien payé hein, du tout au début.
Pas cool, je trouve quand même, parce qu'ils ont levé 10 millions ou quoi.
Non, c'était pas maintenant 10 millions.
Ah d'accord, ok.
Et tu veux que je te dise même, je l'ai vite compris. Alors aujourd'hui, je leur dis merci, mais je te dis honnêtement, j'avais le seum à l'époque où j'avais la même logique que toi, de dire mais attendez les mecs, c'est bon, j'ai démarré avec vous. Et en fait c'est marrant parce qu'en ayant cette, quand je leur disais ça, je l'ai tellement répété qu'ils m'ont dit Ruben, ok, on va te donner des actions.
Ouais, ce que je trouve beaucoup plus intéressant au final parce que ça t'investit d'autant plus en fait.
Ils ont réussi à m'avoir comme ça, enfin c'est pas qu'ils m'ont eu, mais bon. Du coup j'ai accepté un salaire un peu middle, très middle. En me disant, Ruben, on va te donner des bons de souscription d'action, si ça veut dire. Ouais. J'avais 1%, je crois. Mais c'était énorme parce que je sentais le potentiel.
C'est ça.
Et l'aventure RAD commence. Et là, c'était un bordel. Un bordel parce qu'on a fait des trucs de ouf. Et là, j'étais épanoui à mort parce que. Alors, j'ai fait du service client, j'ai fait de la logistique. Et là, quand j'ai commencé à me mettre un peu dans l'influence, c'était plus la com, ça s'appelait comme ça, tu vas communiquer. Et j'ai commencé à prendre un t-shirt. Alors, RAD, on faisait des t-shirts, le modèle s'est transformé, on est passé de vente privée à t-shirt sans stock. Je sais pas si tu vois, c'est en flux tendu, t-shirt suite en flux tendu. T'avais juste les samples et tu les faisais sur place. Donc quand quelqu'un te commandait un suite, tu les faisais direct, donc t'avais pas de stock.
Ouais, donc vous aviez l'usine.
C'est
parce
même pas...
que pour ça, il faut avoir le...
En fait, t'as juste un entrepôt avec des suites gris, des suites noires, des suites blancs. Et t'as des machines.
T'avais les machines, quoi. Parce que généralement, les marques étaient en relation avec des usines qui produisent pour toi.
Donc... Et là, on les avait nous. On avait pris 5 machines. Et là, ça a démarré vraiment. Donc, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir, mais on a fait la collaboration avec Madame Figaro.
Alors, je sais pas si celle-là, je l'ai vue, mais je sais que...
Madame Jalouse. C'était des suites comme ça, Madame Chante, Madame Jalouse. Et là l'influence a démarré et il m'a dit Ruben écoute tu vas créer un pôle quoi, vas-y on te fait totalement confiance, balance le truc.
Donc eux l'avaient vu venir parce que est-ce que là tu te souviens quelle année c'était? Quatrième année, t'avais 21 ans a priori.
Là j'ai 29.
Parce que moi j'ai 22 et je suis en dernière année.
Ouais,
donc,
c'est ça, exactement.
Donc c'était il y a 8 ans, donc c'était en 2011.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc 2011, ouais, beginning 2012. Of influence, franchement, fallait le voir venir, c'était assez avant-gardiste quand même.
Ouais, et c'était le tout début. En fait, si tu veux, quand ça a démarré, moi mes influenceurs aujourd'hui qui ont un million de followers, ils avaient 20K. T'étais influenceur quand t'avais 10K.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois?
Ouais, c'est vrai.
T'avais 10K, t'étais un ben d'influenceur.
Ouais.
Et donc en fait, Facebook. Parce qu'au début, je faisais ma com sur Facebook.
Il y avait Facebook Ads à l'époque ou pas déjà?
Non, je crois pas.
Non,
il n'y avait pas ça encore. Il y avait juste des groupes.
Des pages perso.
J'envoyais mon suite à Kenza, à Nabila. Je crois qu'il y avait Nabila.
Déjà?
Je crois.
Ah ouais, peut-être.
Non, peut-être pas. Peut-être je me trompe. C'était plus après.
Il y avait Garance Doré.
Ouais, exactement.
Betty Yautier.
Ouais, exactement. Kenza, elle était là.
Ouais, ouais. Kenzaï avait, bon après d'autres nanas peut-être internationales, ouais, mais vous c'était surtout c'était la France
ça.
Quoi.
Exactement, ouais. Et il y avait beaucoup de blogging, donc il faisait des articles sur les suites, ouais. D'une marque, ça a commencé comme ça, et si tu veux, donc on lève 10 millions d'euros, et là vraiment j'ai commencé avec Sam, du coup mon pote, à ouvrir le pôle influence chez Rad, où ça a été le début de la vraie success story, où on a commencé à parler nous partout, ça a commencé avec Madame Figaro. Ensuite, on a fait une collection capsule avec Nekfeu et Adèle.
D'accord.
Ça a été vraiment l'apogée du truc. Ouais. Ça, c'était énorme. Mais je t'en parlerai un peu plus en profondeur de cette collection parce que c'est ce qui a mené à justement Follow.
Ouais.
Et on a commencé à faire du code promo. On était les premiers.
Ok. Vous aviez compris. Ouais.
Alors, ouais, en fait, moi, je l'ai compris comment. J'ai envoyé mon suite à une petite influenceuse. Donc là, il y avait Instagram, tout le début d'Instagram. Ouais. J'envoie mon suite. Le suite, il y a écrit Peanut Butter dessus, quoi.
Ah, j'adore.
Voilà. Mais si tu veux, il y a écrit Peanut Butter sur le suite. Ouais, ouais. Le suite faisait 29 euros. Je l'envoie à une fille. Je regarde un peu ce qu'elle fait. Et je vois, je vends 72 suites. Juste, je lui envoie. Hein. Je ne paye pas.
Ouais.
Il n'y avait pas ça à l'époque, si tu m'envoies ton suite, bah non, je te fais un post.
C'était
comme ça.
Ouais.
Ah bah j'ai un suite gratos, je te fais un post.
Ouais.
Et je vends 72 suites. Là, mon patron me convoque, Anthony, il me dit Ruben, creuse. Ouais. Il avait une vision hyper terre à terre, tu vois, genre ça fonctionne, creuse, ouais. Je veux que tu crées ce modèle-là, que tu envoies à tout le monde. Et là, ça a commencé. Et là, ça a commencé vraiment. Je commençais à avoir des objectifs. On était deux sur le marché à faire ça au début. C'était mon télépremier avec Daniel Winton. Je sais pas si tu sais.
Bah ouais. Voilà. Ouais, ouais.
Daniel Winton compte plus que cartonné. Mm. Et donc, du coup, on a commencé comme ça. Voilà, on a envoyé des suites à tous les influenceurs de France, je crois.
Ouais.
Où je m'étais créé un pôle de 10 personnes. Donc, il y avait 10 personnes qui bossaient là-dessus, où on envoyait nos produits, etc. On a été même jusqu'à faire des collabs. On était les premiers, je pense, en France, à faire des collections, des posts avec Kylie Jenner, Kendall. On a fait les plus grosses
stars. Ah oui, je pensais pas que ça avait eu ce niveau de popularité.
Raz, ça a été très, très connu à un moment donné. Ouais. Et en fait, si tu veux, enfin, on a collaboré avec Burger King, avec Evian. On a fait des suites oversize avec Evian.
Ouais.
Ça a été... Enfin, vraiment, on a bien performé là-dessus.
Ouais.
Kylie Jenner nous avait fait craquer le site.
Putain, bah ouais, tu m'étonnes. Hein.
Incroyable.
Elle avait 14 ans. On a le même âge avec Kylie Jenner.
Elle était archi jeune.
Donc elle avait 14 ans.
Je pense qu'elle avait 17, 16 ans.
Donc là, c'est il n'y a pas très longtemps alors. Parce que, attends, moi, c'était il y a 5 ans.
Elle a quel âge aujourd'hui, Kylie Jenner?
Mais elle en est de la même année.
Elle a 21 ans.
Elle a 22 ans.
Elle a 22 ans?
Ouais.
Mais tu sais que le poste y est encore. Hein. Le poste y est encore, mais je vais te dire.
21, 29, 18, 17. C'était il y a 5 ans, si elle avait 17 ans.
Bah, c'était il y a 5 ans.
Ouais, donc, ouais, t'avais 24 du coup.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et en fait, si tu veux, elle craque le site, elle fait craquer le site.
Putain.
Et là, et ça, c'était grâce à notre levée, évidemment.
Ouais.
Et donc voilà.
Parce que là, vous la rémunériez, quoi, du coup, hein, j'imagine.
Bah là, c'était une somme astronomique. Ouais, alors, on avait payé très très cher.
Ouais.
Enfin, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, on n'a rien payé du tout.
Ouais, ouais.
Mais on avait payé très très cher. C'était un énorme risque.
Mm.
Et moi, je me rappelle, je devais suivre le poste parce que j'avais quand même. J'avais vraiment essayé de convaincre. J'avais je m'en souviens, c'était ouf parce que j'avais réussi à convaincre Anthony à lui dire écoute, il faut dépenser tant d'argent sur un profil. Il m'a rayonné quoi.
Ouais.
Il savait même pas qui c'était. Et ça a duré peut-être 2 mois de travail
encore. Négociation,
pour qu'il me dise à la fin écoute, vas-y, go, mais par contre, je t'explique, ne te plante pas parce que sinon, c'est la fin.
Et toi, t'avais ce niveau de confiance quoi.
J'avais très peur.
Ouais, ouais.
J'avais très peur, mais j'étais convaincu en fait.
Ouais.
Moi, j'étais en relation, je voyais tout ce qui se passait. J'avais fait le service client, je voyais le retour des gens, je voyais les commandes.
C'est vrai.
Ils me donnaient une grande confiance parce que j'étais vraiment
dans
le back office, j'avais les mains dedans. Je savais qu'il y avait quelque chose à jouer là-dedans. Mm. Et elle a fait craquer le site, elle a vendu une tonne de sweet peanut butter, c'était incroyable. Ça avait super bien marché.
Mais là, je me demande, je suis obligée d'en parler parce que. Qu'est-ce qui explique, à ton avis, ce niveau de succès? Parce que ça me fait un peu penser. J'ai écouté un autre podcast sur entreprendre dans la mode avec Dan Arouas. Je sais pas si tu le connais, c'est le principal actionnaire de Bâche et qui aujourd'hui investit dans d'autres boîtes. Et il expliquait que, si je me trompe pas, il a aussi investi dans Eleven Paris.
Okay.
Et en gros, il expliquait que voilà, bah, d'un côté, t'avais Eleven Paris qui a cartonné. Mais vraiment sur le marketing en fait, parce que le fondateur d'Eleven Paris a un peu compris ce côté il faut créer la désirabilité, le fait que tout le monde le veuille, etc. Et de l'autre côté, il y avait Bâche qui avait une croissance plus linéaire, plus tranquille, mais qui se concentrait sur la qualité des produits, si tu veux. Parce qu'il disait lui-même, en gros, Ivan Paris, les t-shirts n'avaient rien d'incroyable, quoi. Et Rad, alors moi, je crois pas, j'étais peut-être un peu jeune, je pense que j'avais pas commandé à l'époque, mais les produits étaient-ils si incroyables que ça? Parce que tu me dis, en gros, c'est des t-shirts et des pulls, et tu faisais de l'imprimé, quoi. Ah, mais pas de soucis.
Pas du tout, pas du tout. C'était... Non, pas du tout, c'était...
Comment, tu vois, comment t'expliques le fait que vous ayez pu faire des collaborations aussi incroyables que ce soit avec Kylie Jenner ou avec Evian ou avec Burger King? En gros, c'est qu'ils vous ont juste fait confiance sur le côté marketing, quoi.
Exactement.
Ok.
C'est la coolitude de Rad. On avait un univers, un marketing, et ça, c'est beaucoup grâce à David Smadja, qui a géré toute la direction artistique du site, où il essayait d'être... On était très mass market, mais en même temps anti-commercial. On était très, très, très cool, et en même temps avec un business model vraiment très réglé, où on avait, et ça c'est grâce à Anthony et Simon, où on avait nos suites qui n'étaient pas plus... Enfin, c'était pas des suites de qualité supérieure, hein, c'était juste cool en fait.
Ouais.
Et les gens achetaient la marque. Ouais. J'ai un suite Rad.
Ouais.
Et
l'appartenance, alors, quoi.
C'est une appartenance en fait. Je t'ai créé une communauté, on avait une page Instagram qui était hyper cool. On faisait des collections avec Burger King. Et là, bah, alors je te raconte même pas quand on a fait Nekfeu et Adèle. Les gens disaient putain, j'ai mon suite Rad.
Ouais.
Et le suite en termes de qualité, c'était pas.
Parce que du coup, ça coûte pas cher à produire. Enfin, moi, je te raconterai après, mais comme dans ma marque, je suis les mains aussi dedans. Quand c'est pas des matières aujourd'hui, tu vois, très naturelles, à sourcer, difficiles et tout.
Ça coûte pas cher à produire. Là où ça va te coûter de l'argent, c'est le marketing.
Ouais.
Donc en fait, tu fais un choix.
Ouais, carrément.
Tu peux pas faire les deux parce qu'après, tu t'y retrouves pas. Tu peux faire les deux, mais c'est juste plus complexe. Il faut juste faire un choix. Tu pars sur un produit basique avec un design cool, voilà, soit une phrase, soit un logo qui était vraiment cool. On collaborait avec des artistes, donc c'était vraiment... Il y avait un univers qui était cool, ils ont réussi à créer quelque chose de cool. On a du coup réussi à faire quelque chose de cool. Et donc voilà, on en est là, ça marche super bien. Croissance, on se fait approcher par tout le monde. Beaucoup de médias, beaucoup de journalistes qui nous sollicitent. L'influence, donc moi j'ai une personne par pays. Une personne qui gère l'Allemagne, une personne qui gère l'Espagne, la Suède, l'Angleterre, les États-Unis. On ouvre des bureaux aux États-Unis. On associe aujourd'hui, ça s'appelle Part aux États-Unis, créer un bureau RAD. Aventure qui démarre, je me fais augmenter.
Entre temps.
Enfin. Mais j'avais toujours mes 1% qui me tenait quand même.
Ouais.
C'était quand même, ça me tenait grave parce que je me dis putain, je me voyais, je me dis waouh, ça va être ouf.
Ils ont pas eu des propositions de rachat là déjà à l'époque?
Non, à l'époque là, on venait de lever, c'était un modèle de, on avait un modèle de, c'était de faire de la croissance.
Ouais.
Alors après, j'étais pas encore, je rentrais pas peut-être dans ces discussions de rachat, etc., mais pas à ma connaissance.
Parce que là, toutes les personnes que tu me racontes, ça s'est pas fait sur un an quoi. Adèle, Nekfeu, Kylie Jenner, Burger King.
Ça s'est fait sur 3 ans. Hein.
Ouais, c'était rapide quand
même. Ah ouais, ça s'est fait sur 3 ans, ouais.
Et ça m'intéresse aussi de savoir le fait que t'aies une personne qui était dédiée à chaque pays. Ouais. Ça, vous avez remarqué qu'il fallait s'adapter à la culture du pays. Donc c'était quoi qui changeait en fait fondamentalement? La façon de communiquer, les photos,
enfin... Alors tout, en fait, on s'est rendu compte que, en bossant avec une influenceuse allemande, je crois, on s'est rendu compte que l'influenceuse n'avait pas les mêmes... ne kiffait pas les mêmes produits qu'une française. Pas du tout les mêmes envies. C'était une autre mentalité, ils achetaient pas le même jour, c'était incroyable, ils étaient moins réceptifs aux soldes, c'était une autre manière de penser. Il fallait absolument une personne qui connaisse le marché, parce que ça marchait pas. Quand on mettait un français pour gérer l'Allemagne, ils ne les connaissaient pas, donc tu peux pas. Il faut absolument, si tu veux vendre et tu veux t'implanter dans un marché, il faut les connaître absolument.
Ça c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on ne comprend pas, quoi.
Bah, exactement, et en fait Rad, clairement, l'aventure aux US, ça a été un échec.
Ah,
parce que mon associé est rentré au bout de 6 mois.
Ouais.
Parce qu'il y avait...
Exactement.
On n'avait personne sur place qui connaissait parfaitement le marché, qui connaissait les Américains, qui connaissait leurs envies, leurs goûts, etc.
Ouais.
Et donc ça a été un échec. Ils sont rentrés et on a décidé de se focus du coup sur le marché français et européen.
Ouais.
Et donc du coup, on avait donc ces 10 personnes. Donc Burger King, Evian très très cool. Et là donc collection capsule, non c'était pas maintenant, si je me trompe pas, donc là on est en 2015 et là Anthony me dit Ruben, là il faut vraiment essayer de faire un truc. On s'est rendu compte que le pote, donc là on est dans un modèle où moi j'avais des objectifs pour être transparent avec toi sur les chiffres, je devais faire 200 000 € par mois de code promo.
D'accord.
Je devais générer 200 000 € grâce aux influenceurs.
Ouais.
Et j'atteignais mes objectifs.
De ROI.
Exactement.
Ouais.
Ils voulaient que du ROI. Donc je faisais des posts Instagram à toute balle. J'avais un tableau où je faisais peut-être 50 posts, 60 posts par mois avec des influenceurs. Ça marchait à fond, à fond, à fond, à fond. Les gens étaient réceptifs. Et en fait, je me rappelle, j'étais même pas dur. En fait, je leur disais, je vous envoie le suite. Et on avait un modèle de commission.
Ah oui.
Parce qu'en fait, tu te dis aussi, à un moment donné, en 2015, ils commençaient à demander de l'argent.
Ouais.
C'était très léger, mais ils commençaient à demander de l'argent. Ouais. Les influenceurs avaient 50K, 100K pour les plus forts, 150, 200, ils commençaient à demander de l'argent. Et je leur ai fait un modèle d'affiliation où je leur disais, bah écoute, tu postes, tu mets un code promo et tu gagnes ton argent, etc. Et les influenceurs cartonnaient. Mmh. Donc sur mon tableau, j'avais 50 influenceurs et les 30 premiers gagnaient des sommes assez balèzes par mois. Et ça, c'était incroyable. Et donc du coup, on a continué comme ça et Anthony m'a dit, Ruben, écoute, je pense que c'est très bien, faut passer un cap. Trouve-moi des trucs, je passe un cap. Et là, on s'est dit comment faire un truc pour engager encore plus les influenceurs. Il faut les engager parce qu'un post, ça les engage pas vraiment. Post, code promo, ça y est, ça fait un an, deux ans qu'on le voit.
Fallait du nouveau.
Et là, on a pensé aux collections capsules. Qui n'existaient pas non plus.
Ah ouais, d'accord, ok.
Ça n'existait pas, c'était... Enfin, tu vois, où ça existait sur des stars, des célébrités, sur de l'Algérie, tu vois. Et là, je faisais de la collection capsule pour des influenceurs. On a fait une première collection capsule avec Clara Martz.
Ah oui.
Ouais. Maya. Incroyable. C'était.
Mais elles avaient Maya quel âge à 4 ans
Elles étaient très jeunes.
Ah ouais.
Ah ouais, elles avaient 15 ans.
Ouais.
Même pas.
Ouais.
13 ans, je crois qu'elle avait Maya.
Putain.
Et on rencontre leurs parents, etc. Et c'était des influenceuses à cette époque.
Ouais.
Et on rencontre, je me rappelle, je rencontre Diane, je rencontre voilà, vraiment les parents de Judith, la mère de Maya. Et on fait cette collection, on crée un pop-up, on fait un truc hyper cool avec une prod, avec une DA.
Ouais.
On la market à mort. Carton.
Ouais.
Carton, puisqu'on est toujours sur le même modèle en plus de confidence, etc. Sur ce que rapporte la collection. Ça marche super bien. On passe un autre cap. Et là, on fait Nekfeu et Adèle. Et là, carton plein. Là, je me rapproche de Ruben qui connaissait Nekfeu, donc mon associé actuel. Ruben connaissait Nekfeu, moi je connaissais Adèle.
Adèle, mais la chanteuse américaine.
Ah non, pas du tout, Adèle Exarchopoulos.
L'actrice. Moi, depuis tout à l'heure, tu sais, je vois Adèle, la chanteuse, je me dis ah oui.
Non, Adèle, l'actrice, en fait, on a vu une synergie parce qu'on s'est dit les deux sont grecs, les deux sont cool. Franchement, Nekfeu, il était en top des ventes, ouais. Numéro 1 rappeur France. Adèle, en termes. Enfin, elle avait un talent, elle a toujours un talent incroyable. Ouais.
Ça me va parce que moi, tu sais dans quoi je l'ai découverte? Dans Les Enfants de Timbalback.
Ah ouais, t'as été loin.
Ah ouais. Et je me souvenais déjà que je l'avais grave admiré. Tu sais, c'est con, mais c'était aussi le moment où on commençait à montrer des femmes fortes, tu vois.
Non, mais elle crevait l'écran, quoi.
Ouais.
Elle crevait l'écran, ouais, franchement, c'était un carton. Et même, elle avait ce côté hyper nature et mode que les marques kiffaient, du coup. Parce qu'elle était Géry Vuitton, ambassadrice Vuitton, pardon. Et si tu veux, on s'est dit, bah attends, c'est hyper cohérent. Ils ont plus ou moins le même âge, on va faire un truc. Et là, on a commencé. Moi, j'ai fait mon premier truc avec Adèle, Ruben avec Nekfeu. On s'est croisés. Et ça a été le plus gros succès de l'histoire de Rad. Ouais. Le plus gros succès où on a généré énormément de ventes. Pareil, on a craqué le site alors que depuis Kylie, on avait bien rodé les serveurs, on a recraqué. Et pareil, hein, ça a été là, bien cette fois-ci, 3 mois où il fallait convaincre Anthony. Là, je m'acharnais à lui dire, mais tu ne te rends pas compte l'opportunité qu'on a. Toutes les marques rêvent de faire ça. Il a Adidas, Nike, elle a toutes les plus grosses marques de luxe. Je sais qu'elle l'a aussi fait parce qu'on était copains. On a eu une opportunité, en fait. Il fallait saisir cette opportunité. Ouais. Tu sais, t'as des sentiments des fois, tu dis, il faut absolument
instinct,
faire. Ouais. Mais t'as toujours cette part de peur où tu dis, putain, mais si ça rate, t'engages des frais tellement monstrueux.
Ouais.
Tu vois les sommes d'argent, etc., ça te fait peur, tu vois.
Ouais.
Et ça cartonne, c'était hyper cool, j'étais à fond, enfin je vivais, j'avais l'impression que c'était ma marque, alors j'avais même pas 1%, j'avais l'impression que c'était ma boîte.
Ouais, mais t'avais beaucoup de responsabilités, donc
je gagnais pas énormément, et les 1% faisaient que, c'est pour ça que je dis qu'ils ont été bons, c'est que les 1% faisaient que c'était ma boîte, quoi, je vivais pour Rad.
Ouais.
Et j'étais hyper épanoui par ce que je faisais, en fait.
Ouais.
Je réfléchissais même plus à, tu sais, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que tu veux faire plus tard.
Ouais.
Et donc moi, ce contact avec les gens, le fait d'avoir un projet comme ça si cool, où j'avais une liberté, j'avais des responsabilités, je kiffais. Donc succès, sold out pour tout te dire. Et là, les années passent, on commence à s'essouffler un petit peu, parce que là, toutes les marques commencent à faire pareil. Il y a des marques qui se créent, des marques comme Whoop, comme Joju, comme des, enfin je t'en cite des vingtaines qui font exactement le même modèle que RAD. Tout le monde se met sur l'influence, ça commence à prendre. Là, on sent que c'est le début de l'influence, quoi, tu vois. Les codes promo, on voit que ça. Et là, donc tu vois, moi je vois Ruben, Ruben Chiche, qui m'a aidé, donc du moins cette collection, qui est un ami d'enfance, et qui avait une marque de chapeau, qui avait une marque de chapeau avec.
Je le connais.
Ah, c'est vrai. Ah bah oui, t'étais avec lui.
Ouais.
Et lui, par exemple, bah, lui c'est bon, on en parlera après, mais il est trop chaud.
Il est très sympa en plus.
Bah, adorable,
très
gentil, adorable.
Et très talentueux. Ouais.
Tellement talentueux. Ouais, tu sais, il y a des mecs comme ça.
Ouais.
Passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Enfin, ils vont rien comprendre du coup, mais on vient de croiser Fred Toaster.
Voilà. On vous conseille d'aller le suivre sur Instagram.
Ouais, grave, grave, grave. Et du coup, donc là, et là, je tilte. On a vu ce qu'on a réussi à faire avec notre réseau, avec, avec notre envie de vouloir faire bouger les choses. Et je suis plus trop d'accord avec la vision de RAD, mais mes 1% qui m'ont tenu, même pas, qui m'ont tenu tant d'années, bah là, ça commence à me lasser.
Ouais.
Je me dis, attends, où est-ce qu'on va en fait ? Je comprends pas, et je peux plus faire trop. Je peux plus faire ce que je veux. Et je me rappelle, j'avais dit à mon patron, je lui avais dit, il faut absolument faire un truc où on a les influenceurs avec nous et on crée une sorte de chaîne, de groupe. Je l'avais un peu vendu comme ça, tu vois, et bon, bah là, c'était impossible à faire passer comme message.
Ouais.
Je décide de partir. Et là, je vois Ruben.
Sans savoir où tu vas, du coup.
Sans savoir.
C'est vraiment, tu t'écoutes, tu te dis, ok.
Je dis, tu t'écoutes.
Ouais.
Tu t'écoutes, tu te dis, allez, vas-y, c'est bon. Franchement, il n'y a rien de pire quand tu vas au travail le matin et que ça ne te plaît pas.
Carrément. Tu le ressens vite qu'en fait, que ça ne peut pas continuer. Hein,
mais en fait, ta vie,
ou alors tu te l'imposes, mais.
Ta vie, elle n'a pas de sens.
Ouais.
Tu kiffes pas, c'est chiant. Encore plus si t'as de la pression sur des résultats, des objectifs, si on compte sur toi, t'as un nœud au ventre,
ouais.
C'est affreux.
Ouais.
Franchement, je souhaite à personne, ça a duré au moins 3 mois, quoi, de mon côté, 3 mois, tous les matins, affreux.
Ouais.
On m'en attendait des choses de ma part, et j'étais pas prêt à le faire, ça me faisait pas kiffer. Et donc du coup, je m'en vais, je vois Nathan et Ruben qui avaient une marque de chapeau qui s'appelait Don Paris.
Ça me dit un truc, ouais.
C'est
ouais.
Une marque, et en fait, hyper quali, une marque de chapeau très très quali, ils ont fait un truc de fou. Nathan qui s'occupait de l'image, Ruben qui s'occupait des finances.
Ouais.
Et du commercial, je voyais, tu regardes leur page Instagram, et hyper quali et tout. Et là, on se regarde et on se dit, les gars, voilà, moi je suis plus chez RAD, Samuel aussi n'était plus chez RAD. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, écoute, franchement, je pense que s'il y a un truc à faire, c'est dans l'influence. On a vu ce qu'on a réussi à faire, Ruben, toi t'as l'expérience là-dessus. Et on a décidé de créer un truc. Et voilà, et l'aventure Follow, elle démarre exactement comme ça, dans un café. Mais on était constamment en train de chercher, hein. C'était pas, ça s'est pas fait, c'était constamment en train de chercher. Et là, quand on se voit les quatre, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et on a démarré comme ça, et on a cherché le nom, je me rappelle, pendant deux semaines avant même de faire quoi que ce soit. On a dit, il faut un nom, sinon on n'aura pas l'envie de faire.
Ouais.
Tu sais, c'est hyper dur de démarrer.
Ouais.
Parce que là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai Follow, tu sais, on a l'impression, ouais, Ruben, il est entrepreneur et tout, mais pas du tout. Pas du tout, je suis quelqu'un de très désorganisé, j'ai du mal à mettre trop clair mes idées sur papier. Tout seul, je ne peux rien faire. J'ai franchement.
Donc, t'avais cette conscience-là dès le
Important.
Début. Et donc, t'as cherché à t'entourer quoi.
Si tu connais pas tes défauts, t'es pas prêt à les accepter et tout, tu n'y arriveras pas. Il faut exactement savoir.
Ouais.
Même si t'as une tonne de défauts, de les savoir, c'est une énorme qualité. C'est une énorme force. Et je pense que sinon, j'aurais pas pu faire ça en fait.
Ouais.
Et du coup, on cherchait un nom. On disait, les gars, il faut un nom et tout. Et là Nathan m'appelle et il me dit Rub, alors on est passé par mille noms, hein, je te passe pas les noms et tout, mais il me dit Ruben, qu'est-ce que tu penses de follow? Genre follow quoi? Ça veut dire tu me suis, je te suis. Il y avait plein de trucs qui s'est passé, j'ai dit putain c'est un signe, c'est bon, c'est ça. Follow, on a démarré une fois qu'on avait le nom. Ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un local, il faut trouver un local, ok, mais on met combien d'argent? Mais comment ça se passe en fait?
Bah,
eux ils avaient une petite expérience parce qu'ils ont créé Don.
Ouais.
Moi mon expérience toute pourrave avec mes Teddy, qui était en fait, tu vois, juste plus une expérience d'étudiant.
Ouais.
Eux ils savaient un petit peu, heureusement qu'il y avait Ruben qui gérait justement les finances, cette partie juridique, etc.,
ouais.
Qui savait comment faire. Puis les gars, c'est rien, c'est vraiment rien.
Ouais.
Sur internet, ils t'expliquent tout. En plus, moi, et ça démarre bien, mon cousin il est avocat. Parce que j'ai pas d'oseille en fait, c'est ça en fait, qu'il faut comprendre. C'est que...
Mais t'es pas sorti avec tes 1% du coup?
Ah, pas du tout. Ah, c'est ça que j'ai pas raconté.
Ah,
c'est
bah
que je me suis complètement assis sur 20%.
Merde.
Ah non, mais je suis parti avec 2 500 €, je crois.
Ah ouais, putain.
Ah ouais,
les
c'était...
boules quand même un peu.
Ah, mais les boulasses.
Mais c'est eux qui t'ont fait une.
Non, parce qu'en fait, c'était des bons souscriptions d'actions que tu actives au fil des années. C'est, c'est pas des parts. En fait,
ouais,
des bons souscriptions d'actions, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est. T'arrives dans une boîte. ils te disent bon bah tiens, on te donne 1%, par contre tu vas les activer, tu vas activer 0,25 tous les ans. Et au bout de 4 ans, tu activeras tes 1%, il y a plein de conditions.
D'accord, okay.
Et quand t'as cet âge-là, tu regardes pas vraiment.
Enfin, bah, tu vois,
on te donne un cadeau. C'est comme si on t'offre un cadeau et que tu dis tu peux me le changer
ou je kiffe pas.
T'es obligé d'accepter en fait.
Ah ouais.
Je m'assois sur mes parts.
Ok.
Les boules, parce que je me dis, mais putain, je peux passer à côté d'un gros truc. Je me suis tué à la tâche. J'ai cru que c'était ma marque à un moment. J'ai pensé que c'était ma marque.
Ouais.
Alors que pas du tout. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que je fasse quelque chose. Parce que là, j'ai pas une revanche à prendre, mais presque. Et donc on n'a pas d'argent. Et on démarre avec. On met 1 700 € chacun. 1 700 € chacun.
Pour payer quoi, du coup?
Pour payer. Alors, on trouve un local. On dit, il faut un local, absolument. On trouve un local de 12 mètres carrés. À Vincennes, Saint-Mandé, parce que mes deux associés sont de Nogent et mon autre associé de Saint-Mandé. Et si tu veux, on démarre dans ce local, c'était un coworking, etc., qui coûtait 800 € par mois, un truc comme ça. Donc fallait l'avance, juste ça, et deux ordinateurs, tu vois.
Ouais.
On a démarré comme ça. Et tu sais, c'était bizarre parce qu'il fallait se donner un rythme, on se voyait les quatre le matin, ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre idée? C'est quoi ce qu'on va faire?
Okay. Ça, c'est hyper important à dire parce que je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent, il y a toujours cette peur de ne pas savoir quoi faire et cette pensée que les autres savent ce qu'ils font. Et ça, je le répète tout le temps, c'est personne ne sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, on est tous dans la même merde.
Personne.
Alors, bien sûr, il y en a qui ont des billes de telle expérience, etc. Mais à la fin, on est tous là tapés sur Google, créer une société. Tu vois, enfin,
personne.
Il faut juste
sait.
Faire, en
personne
fait. Il faut pas
sait,
trop réfléchir.
Si tu te compares aux autres, t'es mort.
Mmh.
Et moi, je me rappelle, j'avais un peu ce complexe-là. Parce que il n'y a personne qui a fait des études. Alors, ni Ruben, ni Samuel, ni Nathan.
Ouais.
J'étais le seul qui a fait des études.
Et t'as pas fini.
Va voir les études. Donc, mes études, c'est Barcelone.
Ouais.
Et donc, quand t'es là, j'avais, moi, beaucoup, je me rappelle, par rapport à beaucoup, ce complexe de dire, mais les gars, on ne peut pas faire comme ça. Il faut faire des réunions, il faut qu'on s'envoie des mails. Arrêtez.
Il faut qu'on s'envoie des mails.
T'as ce complexe de dire, mais je vois les autres.
Il faut qu'on soit sérieux.
Et donc, tu sais, ça démarre sur un truc que tu peux gérer, c'est faut être à l'heure.
Ouais.
Ça. Mais quand on communiquait comme ça, on faisait pas de réunion, on disait, mais qu'est-ce qu'on fait, putain. Les mecs, je vois comment ils fonctionnent. Ils sont en costume, ils s'envoient des mails, ils font des points, ils font des graphiques. Tu sais, j'avais ce complexe-là.
C'est tellement absurde quand on y pense.
Mais c'est absurde, mais si tu te dis, t'es dans le flou, donc au début c'était comme ça. Et on a commencé comme ça, je me souviens. Les quatre, on s'est dit, bon, allez, on démarre. On regarde nos familles. Donc à la base, le concept c'était de dire, on croit énormément. Donc il y avait deux choses. On croit énormément en l'encadrement de ces jeunes-là. Tu l'avais dit toi-même. Les filles avaient 13 ans avec qui on collaborait. Et franchement, pas on les sous-payait, mais presque, parce qu'on les payait au prorata, enfin tu vois, de ce qu'ils gagnaient. Ils sont pas encadrés, les jeunes. Et on s'est dit, mais ils vont exploser. Ces jeunes-là vont exploser. Donc, on voulait être très fort dans le management. Et en même temps, on voulait être très fort sur. On va faire comprendre aux marques. C'était le tout début. Hein.
Mmh.
On va faire comprendre aux marques qu'il faut investir dans ces jeunes-là pour communiquer, puisque je l'ai fait moi-même, Sherrod. Ça marche. Faites-moi confiance. Et on a commencé avec un client. Je te raconte même pas quand on a eu notre premier client, c'était avec des influenceuses qu'on n'avait pas. Donc quand je dis on n'avait pas, c'est parce que le modèle de follow à la base, c'est d'avoir des talents en exclusivité.
Voilà, tu t'étais dit, vous étiez dit quoi là? Vous avez un peu regardé ce qui se fait dans le monde du cinéma et de la musique.
De ouf.
Et vous êtes dit, nous aussi, il faut qu'on ait un pool quoi, qu'on
de
représente.
Ouf. Je sais pas comment t'as eu, si tu viens d'avoir cette remarque, mais c'est ouf parce que c'est clairement ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais regarde Universal, regarde IMG Model, c'est à eux, ils ont l'adresse. Et dans l'influence, ça n'existait pas. Il y avait Webedia, il y avait deux talents, mais c'était un network, donc c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas ça, n'existait pas. Et on s'est dit, venez, on se crée un pool de talents. On se crée un pool de talents, c'est les nôtres. C'est les nôtres, et on va les manager. Donc on signe un premier client avec une opération de des influenceurs qu'on connaissait même pas, c'était même pas les nôtres. Premier virement, premier chèque.
Et comment vous trouvez ce premier client? Parce que c'est toujours le plus dur à voir.
Alors
au final.
Bah là, pareil, on se dit, mais les gars et tout, je me rappelle, enfin, on a démarré avec nos amis, quoi, on a recruté nos amis. C'était incroyable, c'était des amis, on leur dit bah venez bosser et vous allez faire un tableau Excel, vous allez regarder sur Instagram et on leur faisait regarder la télé pour les pubs qui passaient à la télé et dire putain j'ai vu une pub Yop, tu rentres Yop, tu recherches sur LinkedIn Yop. Et en fait c'est comme ça qu'on a démarré. Et le premier client c'était ça et c'était aussi beaucoup, on se disait regardez autour de vous.
D'accord.
La famille et les amis. C'est obligé autour de vous, il y a des gens qui ont des marques, qui ont des. C'est évident. Et on l'a tous regardé, mais c'était des appels tous les jours, tous les jours, tous les jours. on a eu notre premier client. Et c'était beaucoup d'acharnement. T'es à deux doigts de te dire...
Ça vaut pas le coup.
Ça vaut pas le coup, mais dans quoi on s'est lancé? Ça vaut pas le coup, personne n'arrive à signer un client. Les gens qu'on a, ils sont pas forcément compétents. C'est une... Personne sait encore ce qu'il fait. À ce moment-là, il n'y a pas de poste. Hein.
C'est clair.
Il y a pas de poste à ce moment-là, tu peux poster tout. On va mettre quelqu'un en finance, il n'y a pas d'argent.
Ouais, ouais.
Tu vas pas mettre un commercial, enfin, c'est le couteau suisse, tout le monde est là. Et en fait, si tu veux, donc premier client, premier chèque, wow, putain, j'appelle Ruben, on a vraiment reçu l'argent, ouais. Oh, truc de ouf.
Ouais.
Et là, l'aventure elle démarre, on reçoit une influenceuse, Maya adorable, avec qui j'avais collaboré sur Rad.
Ouais.
Adorable. Vraiment une petite hyper mature, mais 14 ans quoi.
Ouais.
14 ans. Elle est là, elle a 100K, je crois, même pas. Et nous, on s'est dit, franchement, j'ai vu ce que tu avais fait avec Rad, on prend toi, je la présente aux autres, on veut te manager. C'est-à-dire quoi, manager? On veut clairement te signer en exclusivité. Donc, tu es chez nous, chez Follow, et on va te trouver des deals avec des marques, et tu vas voir ton compte Instagram, là, on va l'améliorer, on va le booster, on va faire plein de trucs. Ok, grave, je signe. Et on a dit, ok, on a trouvé un modèle là, côté influence. Mm. C'est bon, on a trois modèles. Et là, ça a vraiment démarré, parce que une influenceuse. Deux influenceurs, trois influenceurs avec le même discours, quatre influenceurs, cinq influenceurs, et forcément ça donne de la crédibilité auprès des marques.
Ouais.
On est le premier label d'influence. Comment ça, label? Bah, on a des influenceurs en exclusivité. Mm. L'argent rentre, on commence à se donner des rôles, on voit qui est le plus fort dans quoi. Nathan, il avait fait de la DA chez Don, hyper compétent. Enfin, vraiment, j'ai de la chance aujourd'hui, je le dis. C'est que, et ça, c'est aussi une des clés de la réussite. Je dis pas qu'on a réussi, mais c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est que mes trois associés, ils ont pas fait d'études, mais ils sont tous ultra brillants. Mm. Que ça soit Ruben, dans tout ce qu'il fait aujourd'hui, les finances, il est ultra carré. Sinon tu peux pas tenir si t'es pas bon là-dedans. C'est le nerf de la guerre, hein, ouais. La trésorerie, etc. On a Nathan qui a donné, en fait, quand on s'est barré, donc on a eu nos 5 influenceurs, on commence à avoir de l'argent. Il dit, les mecs, on a tant d'argent sur le compte. Soit on reste dans ces bureaux où on va mourir de chaud et on est 50 dedans, on peut pas respirer, ou on commence à prendre des bureaux, parce qu'on avait recruté, on a recruté deux personnes. Et on prend des bureaux dans le 9e, ici, là où t'es, et on met tapis sur ces bureaux. Mm. Mais il reste plus rien dans les caisses. Mm. On met tapis, on a pris un gros risque qu'on regrette pas du tout. Et là, bah voilà, pareil, tu vois, toujours dans cette DA de se dire, on va créer un label, on va créer une identité. On va créer une équipe, ça n'existe pas, on va avoir un compte Instagram hyper beau, Nathan, tu vas gérer toute cette partie. En fait, on va faire ce qu'ont pas fait les agences jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, parce qu'on avait toujours cette volonté de dire, faut se démarquer. Mm. Quand tu lances un truc, il faut absolument te démarquer,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Et on va faire un truc que les agences n'ont jamais fait, c'est-à-dire que les agences faisaient de la communication et du marketing pour leurs clients, mais pour eux, ils s'en tapaient complètement. Mm. Tu sais, c'était des noms, souvent des initiales, OBS, au machin, etc. Enfin, mais tu vois, il n'y avait pas de page Instagram, c'était un site internet.
Il n'y avait pas de désirabilité au final.
Zéro désirabilité, parce qu'ils se disaient, mais nous on le fait pour nos clients, on ne va pas le faire pour nous.
Ouais.
Mais en fait, non.
Ça va avec.
Mais la base, c'est de le faire pour toi. Si tu veux que tes clients ils bossent avec toi et qu'ils se disent, putain, mais il faut absolument bosser avec cette boîte. Et c'est je pense, ce qui a fait un petit peu la différence. Mm. Donc on a commencé là-dedans, où on est arrivé ici. Nathan a fait des bureaux incroyables, je te ferai visiter après, mais on est, enfin, tu vois, ça n'existait pas encore.
Ouais.
Je le répète beaucoup, mais on était tellement fiers de nous de se dire, putain, on a fait un truc qui n'existe pas.
De ouf.
C'est un nouveau métier. On a signé des talents d'exclusivité qu'on manage. Mm. On leur propose des services de ouf. On a mis en place une conciergerie. Et mais tu sais, tout ça, c'était step by step. Tu vois, on aurait pu se dire, avec ça, on fait autre chose. Mais non, on s'est dit, non. Vas-y, viens, on continue à les chouchouter. On leur montre que ce qu'on leur vend, c'est pas du pipeau. Mm. C'est important de respecter ce que tu dis, surtout dans ce milieu, parce que ça va très vite. Et quand on leur vend un accompagnement, il faut des gens. Il faut du suivi, il faut un photographe, d'où Fred Toaster.
Ouais.
Qu'on a trouvé, désolé Fred si t'as acheté un
Toaster. Toaster,
mais c'était un ami de Nathan et Ruben, qui connaissaient de la nuit. Et voilà, ça a été le démarrage, on s'est hyper bien entouré. Et voilà, aujourd'hui on est à 25 talents, 24 talents qu'on manage, on fait de la stratégie de marque. Je crois que cette année on a fait 200 clients. On est 25 salariés. Des 25 salariés. Et voilà, on est hyper content. Hyper content.
Carrément, on s'est arrivé très vite. Hein.
Franchement, ouais.
Tu vois, moi, en 2015, c'était hier, quoi. Je passais mon bac.
Franchement, ça arrivait trop vite.
Ouais.
Ça arrivait trop vite. J'ai 29 ans.
Ouais.
J'ai 29 ans.
Ouais.
Et pour moi, enfin, hier, j'avais 25 ans, tu vois. Ouais. Je disais, mais qu'est-ce que je fais? Comment je
Il y a toute une vie qui s'est passée entre temps, quoi.
Et donc je me rends pas compte un peu, on a beaucoup la tête dans le guidon, beaucoup la tête dans les problèmes.
L'entrepreneuriat, c'est important de le dire aussi, quoi, c'est pas tout rose. Hein.
Ah, mais pas du
tout. Mais vous croyez tellement en ce que vous créez que ça fait passer les problèmes, quoi, en fait.
On a eu des vrais moments de crise, des vraies crises où tu te dis, c'est dramatique ce qui est en train de se... Tu sais, quand t'as la tête dans le guidon, tout te paraît un monde.
Carrément.
C'est tellement...
C'est ta vie, quoi, hein, au final.
Tu te dis, c'est la fin de ma vie.
Tu peux nous parler d'un moment qui a été comme ça, particulièrement dramatique?
Ouais, bah, il y a eu des talents. Alors, si tu veux, pour la petite anecdote, on a commencé, nous, tout au début, avec un talent de télé-réalité.
Ouais.
Et on a décidé de plus jamais. Alors, j'ai rien contre les personnes de la télé-réalité, hein, au contraire. Mais c'est juste qu'on a décidé de plus bosser avec et de, pareil, de vouloir se démarquer. Et c'est vrai que bah, y a un talent qui nous a quittés du jour au lendemain. C'était la première fois que ça nous arrivait. Mmh. C'était dans les 6 premiers mois de follow. Et ça a été un coup de massue. On se dit, mais on se relèvera jamais. On se relèvera jamais parce qu'elle est partie, ailleurs pour une boîte qui fait que de la télé-réalité. Mmh. Et nous, on était toute une petite structure et tout. On s'est dit, mais comment on va faire?
C'était un gros talent, quoi.
Ah, c'était un gros talent, bien sûr. Mmh. C'était un gros talent. On se dit, mais comment on va faire? Et c'est là où les associés, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'on est obligé de se remonter le moral. Tu sais, quand t'es seul, mais à qui tu racontes tes... À qui tu racontes tes angoisses, qui te rassure et tout, c'est hyper dur.
Moi, c'est ma sœur.
Ah bah, tu vois, ouais, c'est bien.
Mais il faut être entouré, même si t'es pas ton associé, il faut quelqu'un.
Il faut être hyper bien entouré. Ouais. En fait, si c'est pas ton associé, il faut quelqu'un qui comprenne ce que tu dis, parce qu'il y a rien de plus frustrant quand tu racontes ton problème à quelqu'un.
Ouais.
Et qui
rassure à moitié, tu vois, genre. Ouais.
Qui est à côté, qui comprend pas vraiment tes problématiques, tu vois. Mm. Et là, c'est là où les associés ont été hyper importants. Et non, il y a eu plein de moments où on s'est dit, tu vois, ou même des problèmes de trésor au début, bah ton ouais. activité elle marche, mais Ruben nous dit, les gars, il y a plus d'argent, les clients, en fait, il faut savoir que les clients ne payent pas, ils payent jamais à temps, jamais.
Les marques, elles payent pas à temps non plus. Hein.
Mais quand je dis les clients, c'est les marques.
Ah oui, non c'est mais ça. Pour vous, mais oui, voilà, de l'autre côté ça. Aussi, quoi.
Coup, tu vois, ouais. Et du coup, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, putain, mais l'importance d'avoir un pôle qui est là, et il faut avoir un mec qui est dédié qu'à ça, ce que fait Ruben, c'est relancer systématiquement, parce que ça ne paye jamais à temps, mais des structures les plus organisées du monde.
Ah ouais, c'est honteux.
C'est honteux, et si t'es amené à vouloir entreprendre une démarche, avocat, etc., mais laisse tomber, ça va prendre un temps fou.
Ouais, ils le savent.
ils le savent très bien, et moi ça m'est arrivé de m'engueuler avec des clients au téléphone, en disant, mais... et j'avoue j'en jouais, je disais, mais... Vous vous rendez pas compte? On va déposer le bilan à cause de vous, ça fait 4 mois qu'on attend votre argent. Oui, mais en fait, on a des problèmes de trésor. Mais comment des problèmes de trésor? Vous avez 500 magasins dans Paris.
Ouais.
Et il faut faire grave gaffe à ça, parce que même si ton activité elle marche, si t'as des problèmes de trésor, t'es mort.
Ouais.
Et donc voilà, il y a plein de problèmes, plein de moments qui nous ont fait douter. Voilà, et on est aujourd'hui, on en est là où on en est. Il y a plein de choses qui sont très très difficiles à gérer. Le management, c'est pas évident. Tu bosses avec des humains, tu bosses avec des jeunes.
Ouais.
On a plein d'objectifs, plein de perspectives pour plus tard. Notamment, alors aujourd'hui, enfin, depuis le début, on a fait des choses pour réussir, hein, clairement, en toute honnêteté. C'est-à-dire, il faut qu'on réussisse dans ce qu'on fait, il faut qu'on trouve une bonne idée et qu'on réussisse. Et réussir, c'était quoi au début pour nous? C'est de se dire, bah, on va faire quelque chose qui fonctionne, un modèle qui fonctionne. Donc ça a été pendant très longtemps, ok, il faut régler le process. C'était le mot, c'était le process. Et ça aussi je peux le conseiller, c'était améliorer tous les jours vos process. Et alors pour ceux qui comprennent peut-être pas le mot process, mais le process c'est simplement de se dire, t'as mis en place quelque chose, donc en interne, avec la relation avec le client, la manière de démarcher, la manière de faire tes reporting, etc. Et ben il faut que ça soit très fluide, il faut que ça marche, il faut que ça coule en fait. Je sais pas si tu l'as vu le film où le mec a créé McDonald's, là, comment ça s'appelle?
Non, j'ai pas vu.
Tu l'as pas vu?
J'ai vu le mec qui teste McDo pendant je sais pas combien de temps, là, Super Size Me, mais j'ai pas vu.
Ah ouais, ça c'est ouf aussi. Non, je crois que c'est j'ai plus le nom.
Ok, bah je regarderai. C'est intéressant, je le mettrai dans les notes du podcast.
C'est l'histoire de McDonald's en fait.
Ouais.
Et tu te rends compte que tout est une histoire de process où les mecs, dans un garage, ils dessinent un truc et c'est le mouvement de chacun qui va faire qu'il a créé un puzzle parfait.
Bah, le travail à la chaîne, quoi, au final.
Ouais.
Hein.
Et c'est le fait de se dire, bah, je le prends, je le mets là, et en fait, il va le récupérer de cette manière, et t'en mets pas trois, t'en mets deux, ce qui va te faire gagner de l'argent. C'est tout un truc, en fait, c'est un puzzle.
Ouais, c'est ça. Qu'il faut
roder
parfaitement.
Exactement.
Et
moi, aujourd'hui, c'est pareil avec tes chefs de projet qui gèrent tes marques, tes commerciaux. faut que tout soit harmonieux, sinon c'est un bordel pas possible.
Ouais.
Et tous les jours, tu t'essaies de t'améliorer là-dessus. Et en fait, voilà, ça a été très, loin, très souvent la course à ça. Donc tu te dis, bon putain, t'as réussi à faire un truc qui marche. Et là, aujourd'hui, on se dit, bon, on bosse avec 20 jeunes qu'on a appris, qu'on a adoré, quoi, qu'on adore. Mm. Parce que forcément, il y a l'affect. Mm. Les malades, ils sont au bureau tous les jours. Vraiment. Et c'est ils viennent, il y en a qui ont fait leurs devoirs. C'est un manager des jeunes, des Paola comme ça, qui ont 15 ans. Mm. On sait que c'est le début d'une carrière, tu vois. Mm. Et il faut les préserver
ouais.
de ouf.
Ouais. Je me demandais comment vous choisissez vos talents, justement. Parce que, est-ce que vous êtes dans la logique du plus c'est mieux? Est-ce que vous les choisissez plus pour l'engagement qu'ils suscitent? Enfin, c'est vraie problématique, quoi. Parce qu'il y a toujours qualité vs quantité. Enfin, tu vois, c'est. Et pourquoi? Est-ce que c'est une volonté de votre part de vous concentrer sur les jeunes?
On a vu un énorme potentiel sur nous, cette. Ça nous a choqué de se dire, putain, mais la fille, elle a 13 ans. On a fait une collection capsule avec elle, ça a cartonné. Elle a 13 ans. On s'est dit, mais c'est pas possible, il y a un truc. Et là, on s'est rendu compte, tu sais, on a bugué, on s'est dit, mais tu te rends compte que là, les jeunes qui naissent, là, ils ont pas connu un monde sans téléphone. C'est trop flippant.
Ouais, c'est flippant.
Et ils démarrent, ils ont Instagram direct, les mecs. Ils sont archi connectés, ils sont tout le temps avec leur téléphone, ils font tout comme ça. Et ça nous a fait tilt en fait. On s'est dit, mais en fait, cette génération là, la génération Z, c'est évident, ça va être la génération la plus connectée qui soit, la plus engageante. Et je me rappelle ça, on le pensait, les 4 ans déjà, il y a 3 ans, on disait, les prescripteurs vont changer. Aujourd'hui, dans une publicité classique, tu sais, c'est souvent, tu t'adresses à la maman, ouais. Papa, c'est eux qui vont acheter. Ça pour nous, c'est fini.
Mm.
Pour nous, quand tu t'adresses à quelqu'un, c'est plus la maman et papa qui décident. Moi, ma mère, elle me disait, à la rentrée des classes, elle me prenait avec elle et elle choisissait, quoi.
Ouais.
Allez, des fois, je pouvais choisir un stylo, etc. Je me rappelle, mais ouais, mon cartable, mais si tu veux, c'est elle qui avait
le lead.
Là, aujourd'hui, une fille de 13 ans, je t'assure que c'est elle qui choisit.
Mm.
C'est elle qui décide, c'est elle qui dit, maman, il faut absolument qu'on s'achète ça, c'est trop tendance.
C'est l'agenda vrai. De. Tu vois, moi, j'ai.
Mais oui.
Un truc que j'ai eu toujours du mal à comprendre aussi, c'est. Enfin, c'est parce que j'étais un peu plus âgée que cette génération-là, mais tu sais, tous les influenceurs qui lancent leurs agendas, en fait. Mais c'est hyper smart parce que, comme tu dis, je pense que toutes celles de 13 ans, tu vois, elles doivent se dire, je veux l'agenda de la fille que je vois tous les jours ou toutes les semaines sur YouTube, tu vois.
C'est ouf. Et c'est là où on s'est rendu compte du truc, quoi. Enfin,
ouais.
Ok, c'est bon, les jeunes ont pris le monopole grâce à ça, grâce au téléphone,
ouais.
Grâce aux réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, mais moi, mon téléphone, je l'ai eu tard. Aujourd'hui, je pense qu'à 12 ans, même avant.
Bah ouais, je regarde mes cousins, ils l'ont eu à 10 ans. À 11 ans, je crois, mon cousin, il a eu un iPhone.
Bah, je pense que dans 2-3 ans, ça, j'exagère pas. Je me dis, bah quoi, à 8 ans, t'as un téléphone.
Putain, moi, j'espère pas, quand même.
Mais en fait, je vois pas la suite. J'arrive pas à imaginer la suite.
Mais ça, je me demandais si tu vois la suite, en tout cas, pour les réseaux. Parce que t'en as déjà qui disent que c'est fini. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, c'est fini, peut-être Instagram. Possible.
Toi, tu penses c'est...
Ah bah, aujourd'hui, nous, on a aucun signe qui nous montre que c'est fini. Pas du tout, au contraire. Mais moi, je vois TikTok arriver, je me dis, mais waouh, TikTok. J'en parlais la dernière fois sur Europe 1 et les mecs, ils avaient la cinquantaine, ils disaient quoi? Bah TikTok en fait, c'est un truc de ouf. Tous les jeunes, tous nos influenceurs aujourd'hui ont TikTok.
Ouais.
Et donc, c'est encore plus jeune, la cible est plus jeune, TikTok et Instagram.
Ouais.
Donc nous aussi, on s'est concentré sur les jeunes pour cette raison-là avec Follow, parce qu'on s'est dit, c'est eux qui ont besoin d'un encadrement. Faut absolument les protéger du monde extérieur parce que c'est important de le dire aussi, parce que c'est vrai que quand tu te prends d'affect avec une petite môme qui fait ses petits trucs, etc., que tu la vois, elle est trop mignonne, elle est dans ses petits trucs, elle parle devant son téléphone, c'était comme ça que ça a commencé. Bon, bah ça devient vraiment ta petite soeur, tu la protèges, et c'est pareil pour tous ceux qui sont chez nous, vraiment vous les protégez. Il y en a qui sont rentrés chez Follow en mode, Ruben, tiens, je vais faire un burn-out. Il y en a qui ont fait des burn-out avant de rentrer chez nous. En disant, Ruben...
Pour savoir ce que c'est très, très chronophage. Hein.
En fait, ils me donnaient leur téléphone. Je ne vais pas citer leur nom. Et ils me disaient, Ruben, regarde. Et t'avais des numéros inconnus, ça sonnait tout le temps. T'avais des fans. T'avais des mecs, des clients qui appelaient, mais qui étaient hyper intrusifs, qui appelaient à 23h, etc. Parce qu'ils se disent, c'est un petit jeune, ça va.
Ouais,
j'ai une grosse campagne, je vais réussir à avoir le truc pour pas trop cher. Et les mecs, ils étaient perdus, quoi. En mode, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté l'école, je te parle même pas de l'harcèlement moral, etc., qui est un sujet hyper, hyper, hyper important aussi, mais si tu veux, on a reçu des jeunes chez nous qui étaient au bord de enfin vraiment, c'était très grave, c'était dangereux, et il faut les encadrer, ces jeunes, tu vois, hormis le côté business,
carrément.
On s'en cache pas, absolument pas,
parce
qu'il y en a un, il y a ce truc social où tu te dis, putain, mais ces jeunes, c'est des mômes, c'est tes petits frères, mais il faut les protéger, tu vois. Et en fait, si tu veux, beaucoup disent, ouais, mais influenceur, c'est quoi, machin, tu vois pas ce qu'ils font, etc. Nous, on le voit, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, tu vois, si ça arrête, ils vont être caissiers. Mais nous, on le voit comme un CV. C'est un CV, en fait. Aujourd'hui, Paola, elle apprend à s'exprimer. Elle fait des conférences. Si demain l'influence s'arrête, aujourd'hui, je t'assure qu'elle a 15 ans, elle parle mieux que moi.
Non, mais c'est sûr. Et puis surtout, il y a tellement de cordes. Enfin, moi, je le dis souvent, j'ai la chance de faire des études qui me plaisent beaucoup, qui sont reconnues, etc. Mais ce que je fais aujourd'hui, je l'ai vraiment plus appris en faisant qu'en apprenant quoi que ce soit à l'école. C'est que du coup, on s'est formé à la photo, à la vidéo, à l'audio, à la création de contenu, à l'écriture, comme tu dis, à l'expression orale. Enfin... Et c'est en faisant, tu vois, on n'a pas appris grand-chose, c'est qu'on a été confronté au truc et on a dû apprendre à le faire, tu vois.
Mais tu te
et c'est la meilleure école, en soi.
La meilleure école, mais nous, aujourd'hui, quand on recrute, tu sais même pas le plus que c'est quand la fille, elle nous dit, bah, je suis un peu influenceuse. Pas pour ses réseaux, parce qu'on s'en fout, entre guillemets, parce que c'est pas l'objectif, mais c'est-à-dire, la fille, elle sait monter, elle sait parler, elle sait écrire. Elle sait prendre des photos. Il y a énormément de choses qui font que tous nos influenceurs aujourd'hui, on est en train de faire de leur ouvrir un maximum de portes. Et c'est ça aussi le vrai message.
C'est vrai.
Et après, derrière, il y a plein de messages. Nous, je sais qu'on a envie de faire des trucs. C'est compliqué à mettre en place, mais aujourd'hui, grâce à l'influence, tu peux faire tellement de choses qui sont bonnes pour le monde, pour des causes, etc.
Je préfère même le terme inspirateur, inspiratrice, et j'essaie de mettre ma voix le plus à profit de la voix qu'on a et qu'on peut faire changer les choses, quoi.
C'est hyper important.
Et je suis contente parce que j'ai l'impression que là, ça fait, quelques années, non, ça fait quelques mois que de plus en plus de créateurs de contenu prennent la parole sur ces sujets.
Ça fait pas très longtemps, je suis complètement d'accord. Mais moi, j'ai une fille comme Paola qui tu vois, elle s'est mise dans une association... moi, ce qui me frappe, c'est déjà leur maturité. C'est incroyable de prendre conscience. Alors après, peut-être c'est le monde aussi dans lequel on vit, c'est quand même alarmant. Il y a plein de choses qui sont très, très alarmantes aujourd'hui. Et beaucoup prennent conscience de ça. Et nous, on sait qu'avec Follow, là, aujourd'hui, on veut faire un truc ou un très gros truc qui fait changer les choses à l'instant T. De se dire, OK, les gars, ce qu'on va faire, on va prendre un gros camion. On va aller faire, je sais pas si t'as vu la vidéo de McFly et Carlito qui m'a énormément inspiré. Ils ont fait une vidéo sur YouTube en disant OK, on va faire un jeu et on va voir. Ils ont fait deux équipes qui va réussir à obtenir le plus de dotation. Et en fait, c'est ce jeu là. Ils appelaient Decathlon, ils appelaient toutes les marques, etc. Et ils les affichaient. Combien vous pouvez nous offrir de trucs? 20 vélos, OK, parfait. Et après, ils comparaient qui avait le plus de.
OK, je l'ai pas vu, mais ça m'intrigue.
Moi, elle m'a inspiré parce que je me suis dit, mais attends. Demain, on fait un truc avec tous nos talents. On a la chance, on a 25 influenceurs, on a un reach de près de 10 millions. On peut couvrir, allez, peut-être pas toute la France, mais Paris, quoi. Une bonne partie de Paris. On lance un message en disant, avec tous nos influenceurs, OK, tu me dis si...
Faut pas aller vers là, c'est tout.
En fait, si tu veux, on prend un énorme bus, et on lance un message en disant, écoutez, on a 72 heures. Là, on atteint des températures qui sont... tu peux pas vivre dehors, c'est impossible. OK, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui ont froid. Ça se voit, tu les vois, en fait. Tu les vois tous les jours quand tu rentres chez toi, quand tu vas au travail. Tu les vois, ces gens-là.
Tu passes devant.
Alors, quand t'es quelqu'un, quand t'es dans un bon mood, en fait, le mec dépend de ton mood. Ouais. Tu vas lui donner quelque chose. Quand t'es pressé, tu peux pas, t'es pressé. Tu penses plus à toi. C'est comme ça. Tout le monde... Enfin, on ne faut pas se cacher. OK, tu fais un truc où tous ces influenceurs-là, on trouve des sponsors parce qu'on va donner de la visibilité aux marques. On s'en fout de ce que pensent les marques s'ils veulent faire pour la visibilité ou pour. Mais le plus important, c'est qu'ils donnent. Et en fait, si tu veux, on se crée un truc où on a de quoi dormir, de quoi se couvrir, de quoi se raser. Je sais pas, et ça aussi, il y a un autre truc qui m'a inspiré, c'est les coiffeurs ou les barbiers qui coiffent des SDF dans la rue. Je sais pas si tu vois, ils les font propre. C'est un début, tu vois. Et en fait, si tu veux, ces mecs-là, tu fais tout Paris. Ça va te prendre peut-être, je sais pas, ça peut te prendre 3-4 jours. Tu fais tout Paris et tu vas à la rencontre de ces gens-là. Tu leur donnes tout ce que les marques t'ont apporté. Donc tu vas contacter des Decathlon, tu vas contacter des marques de food, de boissons. Et ça, en fait, tu te rends compte, tu peux faire des trucs de malade. Et tu peux, je sais pas, peut-être 200, 300, 400, 500 personnes.
Carrément. Mais t'as totalement raison. Et alors, le jour où vous faites ça, je suis carrément partante. Je vois qu'il y en a qui commencent à se mobiliser. Mais comme tu dis, il y a personne qui les rassemble ou qui les fédère vraiment. J'ai reçu Camille de Je m'en bats le clito. Je sais pas si tu vois, donc c'est un compte féministe et engagé. Je t'invite à aller le voir. Ouais, et là, tu vois, elle a fait une mobilisation pour lutter contre la précarité menstruelle. Et donc, en fait, elle a ramassé... elle a fait une collecte auprès de sa communauté. Elle a appelé au don de serviettes hygiéniques et de tampons. Bah, parce que t'as énormément de femmes aujourd'hui, en fait. Enfin, c'est terrible. Ça, vraiment, t'as une problématique. Bah, par exemple, chez les jeunes étudiantes, elles ont pas assez d'argent. Donc, elles doivent faire un choix entre s'acheter des tampons ou manger, tu vois. Et elle l'a fait. Et elle a fait ça avec le Hoxton, je crois. Et du coup, elle a récolté quand même vraiment pas mal de protection, quoi. De vrais produits. Et c'est la preuve que ça marche. Et je pense que les gens demandent que ça. Parce que, comme tu dis, je pense que, évidemment, le côté divertissement plaît à une communauté. Mais derrière ces personnes qui regardent des vidéos, il y a des humains qui ont des valeurs. Et ils demandent que ça, en fait, de s'investir pour une cause qui leur tient à cœur.
Il faut juste les toucher.
Ouais.
Et tu les touches souvent quand il y a un impact direct. Et je suis sûr qu'en mobilisant un grand nombre d'influenceurs, il y a beaucoup d'influenceurs en France, tu les mobilises tous, tu sais que les marques veulent de la visibilité, et tu vas aller chercher tout type de marques et tu vas essayer d'apporter... tu peux faire un raz-de-marée, tu peux faire un vrai truc. Mais il faut se lancer dedans, lancer dedans à fond.
On est prêts, le font un peu aussi avec le climat. Moi, je sais que je prends la parole avec eux et ils ont quand même réussi à avoir Norman qui a écrit, je crois, une lettre au ministre. Il a écrit, je crois, l'année dernière, je sais plus à quel ministère, ils avaient réussi à prendre une grande décision dans les cantines par rapport aux déchets, je crois.
C'est ouf.
Donc, je pense que c'est une belle projection d'avenir. Donc, c'est cool que vous pensiez à faire ça, ouais.
En fait, si tu veux, on se dit qu'à un moment donné, il faut se servir de ça. Tu te rends compte, quand il y a 1 million de personnes qui te suivent, c'est de l'impact que tu peux. C'est ouf, tu peux réussir à déclencher un achat. Mais tu peux complètement réussir à
changer des vies. Hyper positif.
En fait,
quoi.
C'est ça, tu peux changer des vies, c'est ouf.
Trop cool. Bon, écoute, du coup, Ruben, c'était trop intéressant. On arrive à la fin du podcast. Si t'as des ressources à nous partager qui t'ont peut-être aidé, que ce soit développement personnel, entrepreneuriat, tu nous as conseillé du coup là le film du mec qui a fondé McDo, dont je le mettrai dans les notes. Mais c'est vrai que si jamais tu penses, tu vois, je sais pas, un livre qui t'a appris grave des trucs, ou même un outil, tu vois, tu parlais de Cooper, enfin bref, des trucs en gros, des petits tips pratiques.
Bien sûr.
Dans lesquels peuvent piocher les personnes qui nous écoutent.
Alors moi j'avais un délire, et ça c'était grâce au théâtre et tout, j'avais un délire, c'était de devenir une meilleure personne, en fait une personne améliorée de moi.
La
personne...
My better self, j'ai pas choisi pour rien.
J'avais cette volonté de dire je veux être une version de moi-même mais en mieux.
La meilleure version de toi-même.
La meilleure version de moi-même, et j'avais tout le temps ce truc de dire mais vas-y, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne des langues, Mais par contre, je me mettais trop de choses, donc du coup, j'arrivais à rien.
Ouais.
Et en fait, j'ai démarré doucement. J'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning, que tu dois connaître.
Ouais.
Il y avait un bon bout de temps. Bon, alors après, il a ses petits défauts. Il y a trop de pubs et tout, selon moi. Mais ça m'a donné un titre, ça, c'est me dire, vas-y, je vais me réveiller tous les matins. Et je me réveillais tous les matins à 6h30 pendant 3-4 ans.
Ouais.
Et,
ah ouais, quand même.
Ouais. Et je le fais encore. Enfin, je le fais moins là en ce moment, mais c'est incroyable, Donc, tous les matins je me levais à 6h30, j'allais au sport, je faisais une heure de sport et après j'arrivais au travail. De savoir que tu, avant les autres, t'es réveillé quand tout le monde dort, t'as l'impression, tu sais quoi, d'être le roi du monde. T'as l'impression de dire mais tu vas réussir en fait dans la vie parce que t'as beaucoup plus envie. Tu sais, on dort la moitié de notre vie en fait. Alors même si le sommeil c'est très important, je pense que t'es le reflet de tes habitudes. Et donc les gens disent il faut absolument que moi je dorme du matin. J'étais un vrai dormeur. Ça veut dire que le matin pour moi c'était indispensable. Mais quand tu te réveilles une fois, deux fois, trois fois. Alors c'est pas vrai ceux qui disent tu le fais une fois, après ça c'est pas vrai. Faut vraiment le faire 2 mois, te forcer, de souffrir pendant 2 mois. Et après c'est un bonheur.
Parce que c'est ça, tu vois, moi franchement je suis quelqu'un, j'ai pas peur de travailler, je travaille énormément et tout. Mais j'ai l'impression que mon corps a ce rythme où moi, je vais plutôt me coucher à 1h et me réveiller à 9h.
Ouais.
Et tu vois, je me dis...
C'est le rythme que t'as pris.
Ouais, voilà. Et tu vois, je me dis, franchement, ça me va, mais j'ai quand même ce truc de... Tu vois, quand je me réveille, je suis pas sereine parce que je sais que faut que je commence tout de suite,
Faut que tu ailles vite.
Et c'est vrai que je me dis... Putain, en fait, je me suis dit ça aussi parce que un jour, en gros, galère, je vais prendre l'avion, j'avais pas mon passeport, bref, je reviens chez moi à 6h du matin, tu vois. Donc t'as deux choix dans ce moment-là, tu te recouches, tu bades, ou tu fais. Et moi, j'ai tellement toujours des trucs à faire que je me dis, Louise, là, tu commences à travailler. Et se dire qu'à 9h, en 3 heures, j'avais fait mes limites toute ma toute.
En plus, le matin, t'es plus productif.
Ah ouais, t'es vraiment, en fait, comme tu dis, 9 heures, les gens se lèvent, toi, t'as un sentiment vraiment de puissance. Et du coup, je me dis, bah, est-ce qu'il faut, comme tu dis, il faut que je me force pour que mon corps prenne le rythme? Ou juste, genre, bah, c'est mon rythme,
non,
tu vois?
Non, moi, je pense que vraiment, t'es le reflet de tes habitudes. Mm. Je pense qu'un corps, enfin, tu vois,
c'est vrai.
Si t'as des problèmes de santé, etc., mais un corps, ça se modèle, enfin, tu vois,
c'est malléable.
À toi de modeler comme tu veux, enfin. Mm. Il y a des gens qui dorment 2 heures par nuit et qui sont très bien, 3 heures, ils sont très bien. Moi, je pense que, enfin, ça, c'est ça qui m'a donné un peu la patate, c'est de me dire, je me lève avant les gens. Ça m'a donné ça, donc sans dormir avec le morning. Après, c'est vrai que je suis pas un grand lecteur. Mm. Je sais que je manque profondément de culture et ça m'angoisse un peu parce que tu vois, avec Follow, on est amené à être un peu plus médiatisé, on m'interview et tout, mais je sais que j'ai pas beaucoup de culture du tout. Mm. Je le sais.
Donc, bon, a priori, ils vont pas te demander des
non,
dates.
Tu sais, quand t'es un public, ouais, etc., ça t'angoisse un peu. Les gens ont l'image de dire, putain, le mec il a monté un truc, mais pas du tout, frère, je connais rien. Mm. Mais après, ouais, j'essaye toujours de devenir la meilleure, enfin, de s'améliorer toujours. Et Cooper, de ouf, parce que comme je suis pas un grand lecteur, du coup, je me dis, mais attends, c'est ouf, c'est un résumé, un condensé de livres.
Ouais.
Et ça m'aide de ouf, parce qu'avant de dormir, je le mets. Et sur tous les sujets, tout connaître sur l'immobilier, bah, l'immobilier ça m'intéresse de plus en plus, bah, tu le mets. Mm. Tout connaître sur la vie de Xavier Niel, bah, avant j'étais pas trop, je me dis, je vais pas me lire un livre en entier, je le mets, ça dure 20 minutes, je l'écoute. Mm. Ça, c'est ouf, tu vois.
Trop cool, bah, c'est des bons tips, je mettrai aussi tout ça dans les notes. Et du coup, j'ai te posé la question signature du podcast que je pose à tous mes invités. Ah non, tu sais quoi, j'ai une autre question avant, je la pose pas à tout le monde, mais j'ai envie de te la poser. Si jamais tu aimerais écouter ou entendre quelqu'un sur ce podcast, ce serait qui?
Waouh, énorme comme question. C'est énorme. Alors, si jamais je devrais écouter quelqu'un, ce serait qui? C'est une très bonne question.
Quelqu'un dont tu aimerais entendre le parcours? Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, qui t'admire, que tu nous conseilles. Ça peut être certains de tes talents dont tu as envie de connaître l'histoire. Ou ça peut être quelqu'un que tu connais pas et dont tu es curieux de connaître le parcours.
C'est ouf, tu me laisses sans voix. Je réfléchis, en fait. Bah, mes talents, je connais un peu leur parcours, même tous. Mm. Parce que ça passe par là avant de rentrer. Enfin, ils doivent déballer toute leur vie. C'est indispensable. C'est ouf ce que je vais dire, mais ma sœur.
Ok.
C'est ouf, hein. Ma sœur, parce qu'elle a un parcours tellement atypique.
Ouais.
Et je pense que tellement de monde se reconnaîtrait dans ce qu'elle dit. Aujourd'hui, c'est une maman d'un enfant.
Ouais.
Et elle avait une vibe et une ADN tellement artistique, à faire tellement de choses que je sais qu'elle serait hyper intéressante. J'aimerais vraiment savoir comment elle voit aujourd'hui son parcours, parce qu'aujourd'hui, c'est une maman de 30 ans. Mm. Qui est amoureuse de son mari, qui est amoureuse de son bébé, qui ma nièce qui a 2 ans. Et c'est vrai qu'elle a travaillé chez Rap Mag, dans un truc de mag. Elle a vraiment une fibre artistique, elle a envie de faire plein de choses, etc. Mais le fait d'être maman assez tôt, enfin, du moins tôt ou pas, c'est relatif, mais d'être maman, d'avoir vite une vie de famille, du coup, bah, tout ce qu'elle a voulu faire et fait, bah, elle l'a pas fait. Et là, elle est dans une impasse, entre guillemets, de vie professionnelle où elle fait rien. Elle est partie, elle travaille chez Lagardère, elle a fait Rap Mag, Lagardère. Où elle a un peu cette frustration de se dire, putain, mais en fait, je vois des... Elle est dans un flou total.
Ouais.
Mais c'est tellement intéressant de l'écouter, parce que je sais, quand je me pose un peu avec elle, elle me raconte et tout, je dis, putain, mais tellement de monde doit être dans la même situation que toi, ça va être tellement dur pour une femme de vouloir entreprendre, ou de vouloir... bah, t'avais des rêves quand t'étais môme, t'étais hyper talentueuse, mais en fait, tu t'es consacrée à un moment donné, comment tu fais les deux?
Ouais.
Comment tu fais les deux? Et ouais, voilà, je pense ma sœur.
Trop cool. Bah écoute, si jamais tu me
l'introduiras. Instagram, c'est Flower Sneakers.
Ok, facile à retenir.
Voilà.
Trop cool. Et donc du coup, bah là, je peux te poser la question signature du podcast.
Signature, c'est quoi signature?
Ça veut dire que je la pose à tous mes invités. C'est un peu l'ADN, parce que le thème, c'est prendre le pouvoir de sa vie.
Ouais.
Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie. Alors, pour moi, ça veut clairement dire, je pense que on est. Alors. On va pas rentrer dans les polémiques, mais j'allais dire on est tous égaux, etc. Non, c'est pas forcément vrai, je suis pas forcément d'accord avec cette phrase, mais je pense qu'à partir du moment où t'as envie de faire des choses, t'as cette envie là, c'est un peu cliché peut-être ce que je vais dire, mais si tu t'en donnes les moyens, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux pas tout faire, c'est pas vrai, de dire ouais, tu peux tout faire, everything impossible is nothing. Enfin, tu vois, non, je rentre pas là-dedans à ce point, mais je pense que si t'as pris une décision, t'as vraiment pris une décision de dire je vais faire ça. Je vais tout essayer, tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Et si c'est pas ça tout de suite, je le mets de côté, ça sera autre chose. Et ça, et derrière, peut-être que ce que tu voulais faire, bon bah, au final, tu découvres que tu peux vraiment le faire. Mais en fait, si tu veux, à chaque fois, se donner à 400 000%. Quand tu démarres en stage, quand tu démarres dans une entreprise, quand tu démarres, en fait, il faut pas commencer à se dire, à se ménager. Surtout pas. Mmh. Je pense qu'il faut... En France, il y a beaucoup cet esprit de... le salariat un peu où t'es
passif,
fonctionnaire, ouais, où tu dis bah, je suis là, vas-y, je suis payé et tout. Mais donne-toi un but, tu vois, donne-toi un but, dis-toi j'ai envie de faire ça, donne-toi des objectifs personnels, tu vois, c'est vraiment personnel et professionnel. Et tape-toi, quoi, vraiment tape-toi, parce que tu peux faire plein de choses, tu le sais même pas, mais tu peux faire. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je ne savais même pas que je pouvais le faire, comme je te dis, j'ai pas de culture générale, je suis brouillon, je suis le mec le plus désorganisé du monde, je suis tête en l'air, j'ai des défauts monstrueux. Et tu veux, je pensais même pas pouvoir, mais en fait j'ai fermé ma gueule quand j'étais chez Rad. Bah, je me suis saigné en sang. Alors après, c'est peut-être mon passé qui a fait que, tu vois, je pense que quand t'as connu la merde, ça t'aide beaucoup. Quand t'as connu la merde et que t'es seul dans ta chambre et que tu sais que t'es dans la merde, tu te dis ok, il faut que je m'en
t'as
sorte.
T'as pas le choix.
En fait, je pense qu'on sous-estime ce que nous, notre corps physiquement, notre tête, on est capable de faire. Et voilà, donc je pense vraiment tout donner, que ça soit quand vraiment, j'insiste, quand t'es en stage, quand tu démarres dans une boîte, ne te donne pas de limite. Ne te dis pas il faut que je rentre chez moi, ne te donne pas de limite, travaille jusqu'à 3h du matin. Ne te dis pas il faut que je dorme absolument mes 8h, non. C'est t'es jeune, tu te donnes tous les moyens, t'as, tu vois, c'est. En fait, au final, ça rejoint un peu ce que j'étais pas d'accord, mais oui, tout est possible. Beaucoup de choses sont possibles, tu vois.
Je suis d'accord.
Donc voilà.
Trop cool. Bah merci beaucoup Ruben d'être venu sur InPower. J'ai grave aimé cet épisode et je pense qu'il parlera à pas mal de personnes qui nous écoutent.
Merci.
Donc bah toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous le faire savoir comme d'habitude en partageant une story, en taguant le podcast InPower Podcast et en taguant du coup follow. Le compte c'est
We Are Follow.
Super. Est-ce que c'est là aussi où tu veux rediriger les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi, sur follow?
Moi c'est mon compte perso Ruben Co, mais ouais. Mais je les incite. À regarder voilà, ce qu'on fait avec mes trois associés. Il y a notre page qui reflète quand même pas mal ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure de marketing, etc. On essaie de donner une image hyper cool de l'aventure follow.
Trop cool. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Même ton compte perso, si jamais vous voulez envoyer un petit message à Ruben pour le remercier de son temps. Et j'espère à très vite.
Merci beaucoup.
Merci de vous être joint à nous pour cette conversation avec Ruben. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant @wearefollow et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à un ou une de vos amis qu'il pourrait aider et parler du podcast autour de vous, car c'est vous qui permettez à InPower de grandir. Je vous dis un grand merci pour avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Vous êtes les vrais et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.